Vous êtes sur RTL.
Vous tous. C'était donc le 15 août dernier. Un terrible incendie ravageait les 7000 hectares au cœur du département du Var et nous allons vous faire découvrir ce matin l'incroyable enquête en cours. Elle devra répondre à cette question très simple. Qui est l'incendiaire? Et les détails déjà trouvés sont étourdissants. On connaît le point exact de départ du feu grâce aux mégots de cigarettes plus que suspects retrouvés sur place. Ils sont 25 à enquêter et Alice Moreno vous fera découvrir cette enquête si particulière à 7h15. À 7h40, un rendez-vous bien particulier. Là aussi, avec l'homme qui réveille la création d'entreprises en banlieue, il s'appelle Moussa Camara. Enfin, sachez que nous reviendrons en plusieurs étapes sur ce qu'il faut bien appeler les bons chiffres de l'épidémie, moins 30% de nouveaux cas. La semaine dernière, nous sommes le lundi 13 septembre 2021. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, cette opération de secours qui a tourné au drame hier après-midi à Villard-de-Lans.
Un hélicoptère de la sécurité civile s'est écrasé. Mathilde était en randonnée à 50 mètres du lieu de l'accident. Elle témoigne en exclusivité ce matin pour RTL et décrit une scène terrifiante. On apprend mieux quand on est moins nombreux en cours. Le bilan des classes dédoublées dans les écoles les plus défavorisées est encourageant. Enquête RTL à suivre de Marie Guerrier. Dans ce journal, échanger son billet de train jusqu'au dernier moment, c'est fini. La SNCF revient aux règles d'avant Covid. Il y a eu trop d'abus. Anne Hidalgo, candidate à l'élection présidentielle, c'est officiel, avec un objectif maintenant, gommer son image un peu trop parisienne. Et puis Novak Djokovic passe à côté de son rêve de grand chelem. Et pourtant, il n'a jamais été aussi applaudi qu'hier soir.
La politique, Olivier Bost.
On parlera aussi de Marine Le Pen ce matin, à l'offensive et en même temps sur la défensive.
Tout cela dès la fin du journal.
RTL Matin.
Ils étaient donc partis hier après-midi secourir un vététiste blessé sur les pistes de Villard-de-Lans en Isère avant que leur hélicoptère ne s'écrase. On ne connaît pas encore à cette heure les causes de l'accident. Un mécanicien de la sécurité civile a perdu la vie. Les quatre autres membres de l'équipage ont été gravement blessés. Serge Pueyot a pu recueillir en exclusivité pour RTL le témoignage de Mathilde.
Moi j'étais en train de faire la randonnée, du coup je descendais sur le chemin, puis l'hélicoptère était en train de tourner, je sais pas s'il cherchait à se poser. Il a tapé la butte de terre et du coup il s'est crashé sous mes yeux, ouais, j'étais à même pas 50 mètres. J'étais toute seule mais il y a des gens un peu devant moi et on s'est vite décalé parce que sinon on se serait sûrement pris l'hélicoptère, oui. Ah oui, oui, non mais vraiment on était juste à côté. À la base en fait on s'est arrêté parce qu'il tournait un peu bizarrement, donc on a regardé, on a arrêté de bouger pour voir s'il voulait se poser à un endroit. Et du coup, en voyant qu'il s'est crashé, on est parti en courant. J'ai eu très peur que l'hélicoptère me tombe dessus. Le crash a été très impressionnant. Il y a eu des éclats dans tous les sens. Quelques secondes après, ils ont réussi à sortir de l'hélico et ils ont eu un peu de mal visiblement à faire sortir une personne. Et après, ils ont réussi à se décaler à temps et ça a pris feu. Ça a explosé plusieurs fois. Après, les pompiers sont arrivés pour éteindre le reste de ce qui restait, mais il ne restait plus rien.
Le témoignage de cette randonneuse Mathilde au micro de Serge Pueyot. Vous le disiez Yves, RTL revient ce matin dans le Var, un mois après l'incendie qui a ravagé 7000 hectares dans le massif des Maures. C'est un mégot de cigarette sur une aire d'autoroute qui pourrait être à l'origine du feu. On verra avec Alice Moreno juste après 7h15 comment les gendarmes retracent la téléphonie, comment ils vérifient les radars également pour essayer de déterminer qui est passé par là au moment du départ du feu.
7h02, cette enquête RTL maintenant, le dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire fonctionne.
Oui, c'est l'une des mesures emblématiques du quinquennat Macron, réduire le nombre d'élèves de la grande section au CE1 dans les écoles les plus défavorisées, avec l'idée qu'en étant moins nombreux, on apprend mieux. L'objectif étant de réduire évidemment les inégalités scolaires. 330 000 élèves sont concernés et les premiers résultats vont dans le bon sens, Marie Guerrier.
Les premières remontées sur 3 ans indiquent que les écarts ont commencé à se réduire un peu entre les élèves en éducation prioritaire et ceux hors éducation prioritaire. Xavier Bulliard de l'école Albert Camus, classé en REP+, à Creil, dans l'Oise, le constate par rapport aux autres écoles de son secteur.
On est passé de la dernière position à milieu du tableau. Bon, uniquement sur la circonscription de Creil. Voilà, c'est encourageant.
Dans leur classe de CE1 dédoublée, Marie-Laure, Mélanie, Mathilda et Paul ont vu leurs élèves changer depuis que le dispositif est en place.
On a moins d'élèves en difficulté, en fait.
Et puis, il n'y a pas que le plan scolaire apprentissage. On arrive à le faire progresser sur la parole, la participation, les règles de vie.
Moi, je trouve qu'ils sont quand même plus
autonomes. Au niveau des habitudes de travail, voilà, c'est ça.
Comme ils sont peu nombreux, on a le temps de comprendre leurs difficultés, de les solliciter individuellement. Donc.
Ils se sentent plus à l'aise à l'école, en fait, au final.
Et tout ça peut contribuer à la réussite future des élèves les plus défavorisés, mais ce n'est pas mesurable pour l'instant.
Merci Marie Guerrier. L'autre gros point positif, c'est que le dédoublement permet une meilleure relation aux parents. On y revient dans le détail avec l'enquête complète de Marie Guerrier et la brigade RTL tout à l'heure à 8h15. À propos de cette rentrée Ray, on apprend ce matin que 3000 classes sont fermées à cause du Covid. Cela représente à peu près 0,5% seulement du total des classes. Et puis par ailleurs, la quatrième vague de Covid est derrière nous. RTL a fait les comptes ce matin. 30% de contamination en moins chaque semaine depuis un mois. Et ce constat, le pass sanitaire marche. Les lieux à risque, les bars, les restaurants par exemple, ne le sont plus. C'est ce que nous expliquera Sophie Orange juste après l'édito politique d'Olivier Bost.
Il sera 7h15. Anne Hidalgo est donc désormais officiellement candidate à l'élection présidentielle.
Oui, elle s'est lancée officiellement avec maintenant pour elle deux principaux problèmes. D'abord, gérer l'embouteillage des candidatures à gauche et tenter de gommer cette image un peu trop parisienne. D'où d'ailleurs le choix de son équipe de campagne, Marie-Bénédicte Allaire.
C'est avec ce réseau d'élus locaux qu'Anne Hidalgo construit sa candidature depuis sa réélection l'an dernier. Ils sont ses relais dans tout le pays et ils veulent montrer que grâce à leur connaissance fine du terrain, la candidate saura comprendre et répondre aux attentes des Français. Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse.
Nous sommes maires, nous sommes élus locaux, nous voyons bien que beaucoup de choses sont mieux organisées, mieux décidées, mieux mises en œuvre. Concrètement sur le terrain que si elles viennent de Paris.
Ça permet aussi à Anne Hidalgo de se démarquer d'Emmanuel Macron. Carole Delga, présidente de l'Occitanie, emboîte le pas à ceux qui reprochent au président sortant d'être déconnecté du quotidien des Français.
Il y a une forme d'arrogance qui ne peut plus continuer. On doit être au plus près des réalités de nos concitoyens. Et cette équipe de France, c'est ce que nous incarnons.
Et en s'appuyant sur des élus venus de toute la France, Anne Hidalgo veut aussi gommer l'image de parisienne que ses adversaires n'ont de cesse de lui renvoyer.
Merci Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Et sur cette campagne présidentielle d'ailleurs qui s'accélère, Édouard Philippe apporte officiellement son soutien à Emmanuel Macron par loyauté, dit-il, et parce qu'en substance aussi il le juge le plus compétent. Et puis on vient l'entendre avec Aurélie Herbemont dans un air de campagne. Les Républicains n'ont qu'une seule crainte visiblement désormais, que Nicolas Sarkozy soutienne à son tour Emmanuel Macron si aucun candidat, en tout cas chez eux, n'arrive à percer. Il y a notamment ce déjeuner qui les inquiète la semaine dernière entre Nicolas Sarkozy et l'actuel chef de l'État.
Dans un instant, la fin du régime d'exception à la SNCF. Les annulations de billets au dernier moment, et ben c'est terminé. On vous explique tout cela dans quelques secondes.
RTL Matin.
RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bost avec la SNCF qui serre la vis.
Oui, pour cause de Covid et de passe sanitaire, l'entreprise laissait la possibilité à ses clients jusque-là d'échanger ou d'annuler jusqu'au dernier moment. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, était l'invité hier midi du grand jury RTL Le Figaro LCI et il nous a donc annoncé le retour aux règles plus strictes d'avant Covid.
Pendant la crise sanitaire, alors là, tout est devenu échangeable et remboursable jusqu'au dernier moment. On s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça, parce que sinon, il y avait malheureusement des clients qui exagéraient, c'est-à-dire qu'ils vous retenaient 7 ou 8 billets, ils n'en prenaient qu'un. Donc on est revenu au J-3. Donc on a gardé l'échangeable et remboursable pour tous les billets, qui est une avancée considérable, même pour les petits prix. On demande juste aux gens de le dire à 3 jours avant le départ.
Jean-Pierre Farandou qui serre la vis, donc le PDG de la SNCF, invité hier du grand jury RTL, Le Figaro, LCI.
On aurait abusé. Alors le journal, c'est bien Olivier Bost. Pardon, j'y arrivais.
Olivier Bois et Olivier Bost.
Bois pour le journal et Bost dans un instant. Exactement. Merci beaucoup pour la politique. Ouh là là. Alors, après les questions de procédure, le procès du 13 novembre commence vraiment ce matin.
Oui, les policiers et les enquêteurs vont se succéder aujourd'hui à la barre pour raconter l'horreur de cette nuit-là et précisément cette question. Est-ce qu'on peut tout montrer, Cindy Hubert, pendant ce
procès ? Oui, des milliers de photos ont été prises par la police sur les scènes de crime. Des panoramiques seront projetées. Il faut montrer la réalité du dossier, avance un membre du parquet national antiterroriste. Mais il ne s'agit pas de choquer inutilement l'assistance. Il n'y aura pas de gros plans sur un corps, par exemple. Olivier Laplot, rescapé du Bataclan, se prépare depuis longtemps à cette épreuve. Il ne sait pas encore s'il sera capable de rester dans la salle d'audience.
Je les attends d'une certaine façon parce que j'ai besoin de m'y confronter. Maintenant, il faut aussi apprendre à se préserver et puis voir le jour J si on est capable de le faire ou pas, tout simplement.
Autre pièce à conviction qui sera en débat cette semaine, la bande-son de l'attaque du Bataclan. La justice dispose en effet d'un dictaphone oublié par un spectateur. 2 heures, 38 minutes et 44 secondes de pure cauchemar, souligne le patron de l'identité judiciaire, le service qui a dû en faire une retranscription intégrale. Faut-il en diffuser des extraits? La Cour n'a pas encore tranché.
Merci Cindy Hubert du service police-justice d'RTL. Le procès d'Alexandre Benalla, lui, commence aujourd'hui. Cet ancien conseiller d'Emmanuel Macron avait été filmé le 1er mai 2018 en train de violenter des manifestants au cours d'une interpellation, alors qu'il était censé être là en tant que simple observateur. L'affaire avait fait, on s'en souvient, scandale. En bref, le désespoir d'un père dans l'Hérault. La justice lui a retiré la garde de ses deux enfants de 10 et 11 ans la semaine dernière. Il estime, lui, qu'ils sont en danger à cause du nouveau compagnon de leur mère, un homme déjà condamné par la justice et qui en plus est accusé par l'une de ses filles à lui de viol. Enquête RTL et témoignage tout à l'heure dans le journal de 8h.
Il est 7h11, Novak Djokovic passe donc à côté de son rêve de grand chelem.
Oui, et un paradoxe, il a perdu effectivement hier en finale de l'US Open face à Medvedev. Et pourtant, Djokovic n'a jamais été aussi encouragé et applaudi, Isabelle Langer.
Oui, il n'est pas entré dans la légende, a manqué la dernière marche, mais cet échec a peut-être permis à Novak Djokovic de gagner ce qu'il a toujours cherché depuis le début de sa carrière, la reconnaissance du public.
Bien sûr, une partie de moi est très triste, mais d'un autre côté, j'ai ressenti quelque chose que je n'ai jamais ressenti de ma vie. Tout ce soutien, cette énergie et cet amour que j'ai reçu de la foule, ils ont touché mon cœur.
Djokovic n'a pas seulement failli psychologiquement hier, il a aussi été surclassé par un incroyable Daniil Medvedev. Le russe de 25 ans a été monstrueux. Du haut de son 1m98, il a dominé cette finale avec son tennis champagne et mentalement, il a été plus que solide pour s'offrir son premier titre en grand chelem. Medvedev, qui était d'ailleurs soulagé d'avoir gagné, car hier il fêtait ses 3 ans de mariage avec Dasha et il n'avait pas eu le temps de chercher un cadeau pour sa femme. Mais son trophée et le joli chèque de 2 125 000 euros qui va avec devrait rattraper le coup.
Exactement. Oui. Il aura de quoi faire pour le cadeau. En tout cas, merci Isabelle Langer et Daniil Medvedev qui prive au passage Djokovic de son 21e titre de Grand Chelem. Il reste donc pour le moment à égalité avec Nadal et Federer.
Le foot en Ligue 1, la 7e journée s'est terminée hier soir.
Oui, Lyon a battu Strasbourg 3-1. Au classement, le PSG devance Angers et Marseille. Si on prend en compte en tout cas la perte d'un point de Nice, Metz, Saint-Etienne et Bordeaux occupent les 3 dernières places. Et puis en top 14, en clôture de la 2e journée du top 14, Toulouse a balayé Toulon hier soir, 41-10.
Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Beaumont de Lomagne.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 8, le 10, le 2, le 9, le 14 et le 15. La dernière minute, c'est le 10. Drôle de mec, comme Olivier Bost.
Et le journal nous était proposé par Olivier Bois. Merci d'écouter RTL. Il est 7h13, on retrouve donc la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Marine Le Pen a fait sa rentrée politique hier. Entre ses fondamentaux et finalement de nouvelles propositions, elle est à l'offensive et sur la défensive, Olivier.
Oui, en même temps, Marine Le Pen fait une rentrée en fait sous contrainte. Il y a de la concurrence à l'extrême droite. Il faut qu'elle assure son duel avec Emmanuel Macron et enfin, elle doit se renouveler pour sa 3e campagne présidentielle. Tout cela, nous l'avons retrouvé ce week-end dans son discours et dans ses confidences.
Alors, commençons par la concurrence à l'extrême droite.
Alors, c'était le plus flagrant et dès le début de son discours, Marine Le Pen a fixé l'enjeu de la présidentielle. Pas un choix de société, a-t-elle dit, mais un choix de civilisation. Voilà qui résonne aux oreilles de ceux qui regardent Éric Zemmour avec intérêt. Marine Le Pen, sur l'immigration, a déroulé aussi ses fondamentaux. Les délinquants français en prison, a-t-elle clamé, les étrangers dans l'avion. Nous arrivons à un carrefour, a aussi expliqué Marine Le Pen, à un choix en forme de croix, puisque nous sommes à la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est le nom du site internet du polémiste. Marine Le Pen pense qu'Éric Zemmour ne sera pas candidat. Elle a sans doute raison, mais il ne faut pas laisser prospérer pour autant cette candidature. De la concurrence, des candidatures marginales, dit Marine Le Pen. Il y en a toujours eu, Maigret, De Villiers, Dupont-Aignan. Ce n'est pas faux, sauf que cela n'a pas toujours réussi au Front National de l'époque.
Alors vous le disiez que Marine Le Pen n'avait pas non plus oublié Emmanuel Macron. Hein.
Bah, c'est le vrai concurrent, le seul adversaire qu'elle veut. Marine Le Pen n'a que très peu cité le nom du chef de l'État hier, mais elle ne l'a pas épargné avec cette idée de liberté, de défendre des libertés au pluriel. Elle accuse le gouvernement d'avoir installé une société du fichage et du flicage, une façon de parler à une galaxie contestataire large, des anti-passes sanitaires aux gilets jaunes. Elle s'adresse en fait aux anti-Macron les plus virulents, les mêmes qui se sont abstenus lors des dernières élections et qui lui ont fait sévèrement défaut au régional.
Dites-moi, c'est pas un peu cocasse de voir Marine Le Pen s'ériger en premier défenseur de liberté ?
Alors si, surtout lorsque l'on regarde ce que font vraiment ses partenaires nationaliste lorsqu'ils exercent le pouvoir. Orban en Hongrie, Poutine en Russie, pour n'en citer que deux. Mais même si ça semble effectivement osé d'aller sur ce terrain-là, Marine Le Pen est certaine, avec la défense des libertés, de capter l'époque, l'air du temps, ce qu'elle sait faire. Les colères de 2022, voilà ce qu'elle vise. Une façon de se renouveler un peu pour sa troisième candidature.
Olivier Bost, que l'on retrouve sur le site RTL.fr pour toute l'actualité politique. 7h40, je vous le rappelle, Moussa Camara, président fondateur de l'association Les Déterminés. Il promeut la formation à l'entrepreneuriat dans les zones populaires et il répondra aux questions d'Alba Ventura. Une bonne dose d'optimisme et d'espoir pour l'avenir.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 7h15, alors on ne va pas bouder notre plaisir en ce lundi matin, les chiffres de l'épidémie sont bons, très bons même. Est-ce que ça peut durer? On va vous expliquer tout cela grâce à notre brigade RTL. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous le confirmez, tous les indicateurs sont au vert?
Ah oui, le taux d'incidence diminue sans discontinuer depuis un mois maintenant, une belle courbe verticale à la baisse, moins 27%, moins 25% d'une semaine sur l'autre. Clairement, le pic de la quatrième vague est très loin derrière nous. Après avoir frôlé les 300 en août, l'incidence approche doucement mais sûrement les 100. Une quinzaine de départements sont désormais sous le seuil d'alerte à 50, 31 dans la Somme, mais 364 dans les Bouches-du-Rhône. C'est là que la situation est la plus critique. Les chiffres baissent aussi à l'hôpital, un peu moins vite, mais la tendance est la même.
Et comment explique-t-on d'aussi bons résultats?
Une seule réponse, le pass sanitaire. Voilà. Tous les experts interrogés vous disent la même chose. C'est lui qui a permis d'endiguer cette quatrième vague. C'est un confinement en fait qui ne dit pas son nom. Seules les personnes vaccinées et testées négatives fréquentent les lieux à risque, là où on enlève le masque. Les transmissions sont donc très limitées. On est à moins de 10 000 nouveaux cas par jour désormais. Sans cela, c'est clair, hein, il aurait fallu tout fermer pour casser la dynamique du variant Delta. L'Allemagne, qui n'a pas mis en place de passe sanitaire, n'arrive pas à contrer cette quatrième vague. Au Royaume-Uni, où les restrictions ont été levées le 19 juillet, sans passe, sans masque, les hôpitaux se remplissent à nouveau. La France est même citée en exemple dans le monde entier.
Vraiment, à ce point-là?
Oui, les experts français, qui passent beaucoup de temps évidemment dans les réunions internationales, vous racontent que tout le monde leur pose des questions sur ce qui se passe en France. Tout le monde scrute les courbes de notre pays et prend le meilleur des expériences, là en l'occurrence le pass sanitaire. L'Australie est en train d'abandonner peu à peu le fameux zéro Covid pour mettre en place des mesures différenciées pour les vaccinés. Passe sanitaire en Suisse aussi à partir de ce matin.
Est-ce que cela veut dire que l'épidémie est derrière nous et est-ce qu'on va vivre avec le virus grâce au pass?
J'étais sûre que vous allez me poser cette question.
Oui.
Bon, c'est trop tôt pour le dire, vous me connaissez aussi.
Oui.
Tout va dépendre de ce qui se passe dans les écoles. 3000 classes fermées sur 530 000, soit 0,56%, chiffre donné par le ministre de l'Éducation dans le Parisien ce matin. À Marseille, par exemple, 4% des classes sont fermées. 117 classes du premier degré sont fermées dans les Pays de la Loire. C'est donc toute la question. Le pass sanitaire, si efficace pendant l'été, permettra-t-il de contenir un éventuel rebond, une éventuelle cinquième vague? Nous ne sommes pas à l'abri en plus d'un nouveau variant. En tout cas, il est beaucoup trop tôt pour enlever le masque et relâcher les gestes barrières.
Ah, ça, c'est absolument sûr. Merci infiniment pour toutes ces informations. Merci Sophie Orange. Dans un instant, qui est responsable des gigantesques incendies du Var? RTL vous emmène dans les coulisses de cette traque géante qui se joue actuellement dans le sud de la France. Les enquêteurs cherchent encore le responsable du sinistre. Les détails de l'enquête sont absolument étourdissants. Vidéosurveillance, radar de vitesse, ADN, borne téléphonique, le lieu où l'on a retrouvé des mégots. Nous vous emmenons dans les coulisses de cette enquête dans un instant.
RTL Matin, Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Nous avons tous en tête cet incendie géant qui dévastait le Var au cœur du mois d'août il y a près d'un mois. 7000 hectares de forêt dans le très précieux massif des Maures, ravagés par les flammes, attisés par des conditions extrêmes, le thermomètre affichait 34 degrés et les vents soufflaient à 80 km/h. Le bilan est lourd, 2 morts sur la commune de Grimaud, une trentaine de blessés dans le département, peut-être plus, des maisons détruites et un traumatisme psychologique immense pour les habitants de la région. RTL vous propose ce matin de retourner dans la zone du feu aux côtés des enquêteurs. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes retourné donc dans le massif des Maures, aux côtés de la cellule de recherche des causes de l'incendie, les enquêteurs chargés de trouver le point de départ de ce feu dans l'immense zone brûlée.
Oui, la voiture de l'adjudant-chef Christophe s'engouffre dans un paysage lunaire.
Et là, on va arriver sur la zone de départ.
Ce technicien d'identification criminelle était un des premiers arrivés ici le 16 août dernier.
Sur les premiers hectares qui ont brûlé.
Dans la forêt dévastée, il retrouve le lieutenant Michel, sapeur-pompier du Var.
Je suis né ici, j'ai grandi dans la forêt. De voir le spectacle qu'on a en face là, moi, ça me désole.
Les deux hommes sont membres d'une cellule d'enquête spécialisée, baptisée RCCI, Recherche des causes et circonstances. circonstances d'un incendie. 25 hommes, forestiers, pompiers, gendarmes la composent. Ils ont trouvé le point de départ du feu géant.
Donc l'équipe, au cours de ces différentes formations, elle a appris à lire le déplacement du feu sur les objets, sur les arbres. Par exemple cet arbre-là, hein. On peut voir qu'il y a une partie verte qui fait face au grillage là-bas au fond, et une partie brûlée en hauteur. Donc ça, c'est la ligne de carbonisation et ça, ça nous indique un feu qui viendrait du fond là-bas.
Au fond là-bas, c'est l'aire d'autoroute de Gonfaron. Les experts du feu confirment avec d'autres indices.
Donc, qu'est-ce qu'on voit là ? Le classique chez nous, c'est l'escargot carbonisé sur la face de propagation. Il va le laisser intact derrière. On le voit beaucoup sur les canettes en fer.
La pétrification des végétaux. Donc c'est le feu qui va passer. Du coup, il y a de la chaleur qui va se dégager du feu. Et dans le sens du vent et du feu, le haut des végétaux vont se courber et vont rester figés. Ça donne la propagation du feu. Et si on suit comme ça avec notre regard, on s'aperçoit que ça va se diriger à un certain endroit qui doit être notre zone de départ.
Généralement, on travaille sur trois indices sûrs. On plante un drapeau. Et après, donc, lorsqu'on aura bien réduit, on va sortir le pinceau et on va travailler doucement autour des pierres au pinceau.
Un travail digne d'archéologue et finalement sous un arbre en contrebas de l'aire d'autoroute.
Donc il y a des objets qui ont été saisis et placés sous main de justice.
En l'occurrence des mégots.
Là on est sur un feu d'origine humaine, là on est catégorique.
L'acte de négligence laisse peu de doutes, des expertises sont en cours sur les mégots découverts à la recherche d'empreintes potentielles.
Alors un feu d'origine humaine, cela ne laisse pas de doute. Et l'enquête pour retrouver le ou les responsables est sur le haut de la pile des dossiers du procureur de Draguignan.
Absolument, un appel à témoins a été lancé très tôt. Deux juges d'instruction pilotent les investigations et six gendarmes constituent la cellule d'enquête Héphaïstos 83.
C'est l'urgence absolue. Il y a des gens qui ont tout perdu dans cet incendie. Pour nous, c'est donc une enquête prioritaire.
Le procureur de la République de Draguignan, Patrice Cambérou, détaille le travail de fourmi des enquêteurs.
C'est très compliqué de déterminer qui a pu jeter ces mégots, si ce sont bien les mégots qui sont à l'origine du feu. Il faut déterminer quelles voitures sont passées par là. En visualisant les caméras de vidéosurveillance, en visualisant les passages devant, vous savez, ces radars qui calculent la vitesse des véhicules sur l'autoroute, en croisant les données du trafic cellulaire et la visualisation des véhicules qui passent par là, que l'on va pouvoir peut-être déterminer qui était à cet endroit-là, à ce moment-là, vers 17h30, lorsque l'incendie a été déclenché.
Il a ouvert une information judiciaire pour incendie involontaire par violation d'une obligation de prudence. Sanction à la clé, 10 ans de prison maximum, 150 000 euros d'amende, car l'incendie a tué deux personnes et le préjudice psychologique dans la région est immense.
Le choc est particulièrement important pour les habitants du hameau de Val-de-Gilly, sur la commune de Grimaud.
Oui, deux morts dans ce petit village et six maisons entièrement détruites. Celle de Janine est encore debout, mais le jardin, lui, est réduit en cendres.
Le paysage, c'est un paysage triste, avec du bois noir de partout. C'est que des troncs calcinés, avec une odeur âcre qui continue à régner un petit peu partout. On sent encore bien le feu et puis ce silence, on avait énormément d'oiseaux. Il n'y a pratiquement plus rien, ça va revenir, mais...
À la place, les bruits des travaux rythment les journées des sinistrés. Ce jeune homme aide ses parents à remettre la maison en état.
Nous, les dégâts, c'est la terrasse, l'intérieur, les peintures, parce que ça a pris la fumée. On a la toiture à refaire, les vitres, voiture. On a une voiture qui a brûlé.
Tous ici attendent avec impatience les résultats de l'enquête.
Il faut absolument qu'on comprenne ce qui s'est passé. Si jamais l'incendie est d'origine criminelle, qu'on retrouve et qu'on appréhende les gens qui en sont responsables et qui finissent, je ne sais pas, soit en prison, soit en hôpital psychiatrique. Et c'est normal parce que c'était quand même une épreuve.
Le procureur prévient, il faudra encore des semaines d'investigation, des mois pour déterminer le préjudice total et des années pour soigner le traumatisme.
Merci beaucoup Alice Moreno du service police-justice pour les coulisses de cette incroyable enquête qui mobilise les gendarmes du Var depuis plusieurs semaines. La réponse à trouver est très simple, qui est l'incendiaire ? Dans un instant, nous allons retrouver notre pépite musicale, les grosses têtes et la météo de Louis Bodin. Mais on vient d'apprendre que le laboratoire franco-autrichien Valneva annonçait que le gouvernement britannique résiliait les commandes de son candidat vaccin. Le Royaume-Uni avait commandé 100 millions de doses. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin, RTL Matin.
météo, Louis Bonnard.
Mais avec du temps sec encore aujourd'hui dans la plupart des régions, de très belles éclaircies, et puis cet après-midi, arrivée de nuages et de quelques pluies de la Bretagne aux Pyrénées, avec parfois même de l'orage au sud de la Garonne, quelques averses autour du golfe du Lion, et avec ce soleil qui dominera encore quand même, les températures en hausse à 20 à 23 degrés près de la Manche, 24 à 28 degrés dans les autres régions de la moitié nord, et parfois jusqu'à plus de 30 degrés dans la moitié sud.
Merci Louis Bodin, merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 13 septembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord ce titre à la une de l'équipe, le rêve brisé, le rêve de Novak Djokovic, battu en finale de l'US Open. Le Serbe était à 3-7 de l'exploit, un grand chelem sur l'année, ce qui ne s'est pas vu depuis plus de 50 ans. Mais il a été stoppé par le Russe Daniil Medvedev sur un score sans appel, 6-4, 6-4, 6-4.
Je savais que moi je dois être à 300%, il faut que je meure sur le terrain pour essayer de l'arrêter. C'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai gagné le Grand Chelem. N'importe qui était en face, je voulais le faire. Après, il était proche de faire l'histoire incroyable. Donc, je suis triste pour lui, mais je suis content pour moi, quoi.
Daniil Medvedev avec Isabelle Langer. Daniil Medvedev qui parle très très bien français, on l'entend parce qu'il vit à Monaco et il s'entraîne précisément avec un entraîneur français.
Il est 7h32, un mort, quatre blessés, terrible bilan après le crash d'un hélicoptère de la sécurité civile, c'était hier en Isère.
L'équipage était parti porter secours à un cycliste en difficulté pour une raison encore inconnue. Il s'est abîmé au sol sur la commune de Villard-de-Lans. Les cinq personnes à bord ont réussi à s'extraire mais le mécanicien a succombé à ses blessures. David faisait de la randonnée en contrebas et l'a assisté à l'accident.
On était juste un peu en dessous, il tournait en rond, il tournait en rond pendant je sais pas combien de minutes. Il devait rechercher le vététiste. Moi, j'ai pas rien vu de bizarre, il était bien d'aplomb et tout. C'est pour ça qu'on était étonné quand il s'est écrasé. Il s'est écrasé tout seul, on a entendu un boum. Après, j'ai vu des morceaux d'hélicoptère voler en éclats comme ça. Et quelques temps après, quelques minutes après, on a entendu un grand boom, là il a explosé, après ça a fumé tout noir. Et quand il s'est écrasé, il y a des gens qui couraient parce qu'il a failli leur tomber dessus. Ils avaient des gamins qui pleuraient et tout parce que les gamins ont eu peur, quoi.
Un témoignage RTL recueilli par Serge Puyot. Trois ans après, le procès d'Alexandre Benalla s'ouvre aujourd'hui à Paris. L'ancien collaborateur de l'Élysée est jugé pour des violences sur des manifestants le 1er mai 2018. Il devra aussi s'expliquer sur ses passeports diplomatiques et sur cette arme exhibée dans un restaurant. Au chapitre politique, nous avons deux femmes en campagne et un homme qui ne l'est pas. Cet homme, c'est Édouard Philippe qui a exprimé hier son plein soutien à Emmanuel Macron pour cette présidentielle. Pendant ce temps, à gauche, Anne Hidalgo s'est déclarée candidate à Rouen et Marine Le Pen, elle, a passé les rênes du parti à son numéro 2, Jordan Bardella. La présidente du RN était en meeting à Fréjus où elle a défendu la civilisation française. Un discours qui faisait écho au grand remplacement dénoncé par Éric Zemmour. Le polémiste entretient toujours le suspense sur sa candidature. Les militants RN sont-ils prêts à le suivre? Pas sûr, écoutez.
Je l'écoute beaucoup, je l'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup Éric Zemmour. C'est vrai qu'il serait bien dans nos rangs, quoi. Disons que c'est pratiquement le seul que j'écoute.
Vous pensez qu'il ferait un bon président, Zemmour ?
J'ai opté pour Marine Le Pen, je la suivrai jusqu'au bout.
Il ferait un bon Premier ministre, mais je ne suis pas sûre que ce soit dans ses objectifs.
Je pense qu'il fait du bruit. Zemmour a toujours fait de la publicité. Hein. Je pense qu'au dernier moment, vous savez, ça fait comme l'affaire Coluche.
Propos recueillis par Marie Mollet.
7h34, 3000 classes fermées en France à cause d'un cas de Covid. Voilà le bilan 8 jours après la rentrée.
Oui, chiffre fourni par le ministre de l'Éducation dans Le Parisien ce matin. C'est peu, à peine plus de 0,5% des 540 000 classes du pays. Mais ça n'en est pas moins pénible quand ça vous tombe dessus. Gros problème de garde pour Flore, maman de Nathan qui est en CM2 à Strasbourg.
Voilà, une semaine d'école et déjà à la maison. Voilà. Donc, on n'a pas eu le temps de prendre tellement d'habitude sur la reprise de l'école. On est déjà comme un semi-confinement. Donc là, je suis toute la semaine en télétravail. Donc, y a des déplacements que je ne peux pas faire. Faut s'organiser avec le boulot. Ah non, aussi, c'était une surprise, quoi. Aussitôt, on ne s'y attendait pas. C'est un peu rude, quoi, pour nous.
Un propos recueilli par Yannick Collant. Et pour ceux qui vont en classe, les évaluations de CP, CE1 et 6e commencent cette semaine. Une mesure censée relever le niveau des élèves, comme le dédoublement des classes de grande section CP et CE1 dans les secteurs les plus difficiles.
RTL fait donc le bilan. Trois ans après, les élèves ont-ils de meilleurs résultats dans les classes dédoublées? Réponse avec notre brigade dans le journal de 8h.
Avis aux automobilistes. Préparez-vous à partir du 1er novembre. Les pneus hiver seront obligatoires dans de nombreux départements, y compris Christophe Bourou en plaine.
Au total, cette mesure va s'appliquer dans 48 départements comme les Alpes, la Corse ou encore le Massif central. Ce sont les préfets qui vont décider quelles routes, quelles zones seront concernées. Et pour le savoir, les préfectures vont publier une liste optimiste et les panneaux seront installés. Des nouveaux panneaux expliquant qu'il faut obligatoirement s'équiper de pneus hiver, bien sûr. Alors attention, la réglementation en impose au moins deux sur les roues motrices. Mais aussi, si vous n'habitez pas la région et que vous êtes simplement de passage, eh bien les chaînes sont également tolérées. Sinon, gare au PV de 135 euros. Enfin, le conseil est de ne pas trop tarder pour aller acheter des pneus. En effet, les garages craignent un embouteillage, voire une rupture de stock dès la mi-octobre.
Et les pneus hiver obligatoires, ce sera chaque année entre le 1er novembre et le 31 mars. Si vous devez prendre le train dans les jours ou les semaines qui viennent, attention, on ne peut plus échanger ou se faire rembourser jusqu'à la dernière minute. Le PDG de la SNCF l'a confirmé hier sur RTL. Le dispositif exceptionnel disparaît dès aujourd'hui. Désormais, il faut s'y prendre 3 jours à l'avance. En football, Lyon s'est imposé 3-1 à domicile face à Strasbourg en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Notez que le capitaine strasbourgeois Dimitri Liénard a dû être évacué sur une civière après s'être écroulé en plein match sans raison apparente et on ne sait pas comment il va ce matin. Par ailleurs, Nice est allé battre Nantes 2-0 et se rapproche du podium occupé par le PSG, Marseille et Angers. Angers qui a fait match nul, un partout à Brest. Et puis l'info people du jour, à peine libérée de la tutelle de son père, Britney Spears s'est fiancée. La chanteuse de 39 ans a dit oui à Sam Asghari, 27 ans, qu'elle a rencontré sur le tournage d'un clip en 2016. Leur vidéo a été vue plus d'1,5 million de fois sur les réseaux.
Le Tout Info nous était proposé par Isabelle Choquet. On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Avec un curé star des réseaux sociaux, justement, un curé qui embarrasse l'Église.
La face cachée de l'économie, tout de suite avec vous, François Langlais. Bonjour.
Bonjour, oui.
Angela Merkel s'apprête à quitter le pouvoir après plus de 15 ans de règne et vous n'avez pas l'air épaté.
Oui, ça va être l'occasion de tirer le bilan de son action politique. Et vous allez voir que quand on regarde de près, sa réputation est largement surestimée.
Ah, vous nous intriguez. A tout de suite pour l'Angle Éco avec François Langlais.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h39, l'Angle Écho avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Le 26 septembre se tiendront les élections donc législatives allemandes et la chancelière Angela Merkel va quitter le pouvoir. Elle ne se représentera pas.
Oui, et on est tenté de dire, tant mieux. Elle s'en ira au terme de 4 mandats, ça fait 15 ans et 10 mois, presque autant que son mentor, le chancelier Helmut Kohl, oui, qui avait passé de justesse la barre des 16 ans au pouvoir. Elle aura quand même connu 4 présidents français. Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron.
Mais quand même, pourquoi nous dites-vous bon débarras ce matin ?
Parce que le bilan de Merkel est largement surestimé. Bon, c'est à coup sûr un animal politique hors pair qui a toujours suivi l'opinion publique avec beaucoup d'intuition, un peu comme notre Jacques Chirac, mais elle n'a pas fait grand-chose.
Mais quand même, l'économie allemande est très solide, non ?
C'est vrai que sous son règne, elle a prospéré. De 2006, quand elle a pris ses fonctions, à 2020, le PIB par tête a progressé de 56% outre-Rhin, selon l'OCDE.
C'est pas mal.
Oui. Mais alors, sur la même période, le PIB d'un Français n'a pris que 43%. Surperformance allemande, donc, mais qui est quand même largement due à des réformes qui avaient été faites par son prédécesseur social-démocrate, Gerhard Schröder, dont elle a profité. Schröder qui a été d'ailleurs battu aux élections à cause de ces réformes. Pour le reste, les grandes décisions qu'elle a prises étaient dictées par l'urgence, voire la démagogie.
Dites donc, vous êtes drôlement sévère. À quoi pensez-vous ?
À la décision de sortir du nucléaire, prise brutalement après la catastrophe de Fukushima, sans concertation aucune avec les pays voisins, dans l'impréparation totale. Décision qui s'est traduite par une augmentation considérable des émissions carbone du pays, à cause des centrales à charbon qui ont compensé. Puis, elle s'est mise dans la main de Poutine, avec le gazoduc Nord Stream 2, inauguré ces jours-ci, qui va installer l'Allemagne sous dépendance énergétique de Moscou, justement en lui livrant du gaz russe. Pour Poutine, il faut dire que c'était la partenaire idéale. On pourrait aussi évoquer la crise des migrants, ou la décision unilatérale de l'Allemagne d'accueillir 1 million de réfugiés syriens, en grande part, a créé un formidable appel d'air pour tous les candidats à l'exil et qui a déstabilisé tout le continent et qui a nourri le populisme en Europe. Bon, il faut quand même dire que l'intégration et la formation de ces réfugiés en Allemagne a été remarquablement rapide.
Alors, de façon plus générale, sa gestion de l'Europe ?
Deux époques très différentes. Pendant 15 ans, elle est très rigoureuse sur le plan financier et monétaire, au point quand même de mettre en péril l'économie de la zone euro. En octobre 2008, par exemple, je m'en souviens très bien, alors que le système financier s'effondre, elle refuse de garantir les dépôts et de soutenir les banques. Ce que demandaient Sarkozy et le Premier ministre britannique Gordon Brown. Elle y sera contrainte quelques heures plus tard, devant l'effondrement des banques allemandes. Au moment de la crise grecque, bon, là encore, elle refuse de soutenir le pays dans un premier temps, au nom de la défense des intérêts des épargnants allemands, parce qu'elle ne comprend pas la gravité du risque pour l'euro. Et cet entêtement explique en partie la crise de l'euro en 2011-2012, avec la sous-croissance de la zone qui l'a accompagnée. Il faudra attendre la dernière année de Merkel, pendant l'épidémie, alors qu'elle a annoncé sa retraite, pour qu'elle accepte de mutualiser le coût d'un plan de relance européen de 800 milliards d'euros. Finalement, la meilleure Merkel aura été celle qui s'en va.
Merci beaucoup François Langlais. Rendez-vous sur RTL.fr pour découvrir le premier épisode de la saison 3 de Langlais Co, intitulé « L'argent magique existe-t-il vraiment ?» Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Alors mon invité aide les jeunes des banlieues à monter leur petite entreprise, leur start-up. Il y a par exemple Ilias qui pendant le confinement a créé l'appli Trouve ton prof. Il y a Farid qui a mis en place une plateforme pour recruter plus vite du personnel soignant. Et celui qui permet tout ça, eh bien, c'est Moussa Camara de l'association Les Déterminés. Il est mon invité.
A tout de suite avec votre invité.
Excusez-moi. RTL Matin. Avec Yves Calvi.
Il est 7h45. Très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Moussa Camara, le président fondateur de l'association Les Déterminés. Les Déterminés qui est à la création d'entreprises, notamment en banlieue.
Voilà, bonjour Moussa Camara. Effectivement, c'est vous qui mettez le pied à l'étrier de jeunes de quartiers populaires qui veulent monter leur entreprise. Alors de Roubaix à Montpellier, en passant par Strasbourg, Nantes, Toulouse, Le Havre et même Cergy-Pontoise où vous êtes né. Moussa Camara, à chaque fois que le président Macron parle d'entrepreneuriat, il vous cite. Qu'est-ce que ça vous fait ?
Bah déjà, voilà, c'est la reconnaissance du travail qui est fait depuis plusieurs années par la structure qu'on a montée. On est parti d'un constat où, dans plein de territoires, parce qu'on parle des quartiers, mais il faut aussi parler des territoires périurbains, dans les campagnes aussi, il y a une vraie volonté d'entreprendre. Des jeunes, des moins jeunes, mais parfois qui n'ont pas forcément accès à un réseau, qui n'ont pas forcément l'accompagnement et surtout les moyens financiers. Et finalement, parfois, on peut se limiter en fonction des difficultés qu'on rencontre dans l'environnement dans lequel on est. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est remettre le cœur du développement économique dans les territoires éloignés des bassins d'emploi, etc. Parce que moi, je suis intimement convaincu que grâce à l'émancipation économique de ces populations, on réussira à tirer une réussite sociale des populations les plus éloignées des lieux économiques. Et c'est la mission qu'on s'est donnée avec les Déterminés.
Alors les Déterminés, c'est votre bébé. Au départ, c'est l'histoire d'un échec, de votre échec ?
C'est l'histoire aussi d'un échec, d'un constat général.
Vous avez essayé de monter votre boîte et...
J'ai monté ma boîte, qui a duré 5 ans dans les métiers de l'informatique et des télécoms. Mais j'ai tellement galéré au début parce que j'avais pas forcément d'exemple d'entrepreneur dans mon entourage, dans ma famille. Et c'était très compliqué de se dire que j'allais devenir entrepreneur. Moi, j'ai eu une rencontre. De cette rencontre est née une opportunité. Et je me suis lancé. Mais à l'époque, quand il y a 15 ans, quand j'ai lancé ma première boîte, j'avais 20 ans. Pas d'expérience professionnelle. Quand on me disait, voilà, il y a une opportunité de monter ma boîte, c'est comme si j'allais construire un immeuble de 15 étages. C'était impossible. C'était un truc qui n'était pas forcément dans mes cordes. Et ce qui a fait la différence, c'est ma capacité, ma volonté, ma détermination maniaque à porter mon projet. Et j'ai recruté une dizaine de personnes, mais j'ai rencontré tout un tas de difficultés, d'erreurs que j'ai pu faire.
C'est quoi la paperasserie ? C'est quoi ? C'est l'URSSAF ?
Tout ce qui est administration, déjà, il fallait connaître. À un moment donné, où comment je commence à avoir une croissance, où je devais recruter des personnes, j'étais incapable de pouvoir les manager, et j'avais personne vers qui me tourner, et je me suis senti vraiment seul dans cette aventure entrepreneuriale.
Et Moussa Camara, vous avez enfoncé des portes parce que c'était pas évident pour vous d'accéder à ces réseaux économiques.
C'était pas évident déjà d'une, parce que c'était pas mon cercle, c'était pas mon environnement, c'était pas mon écosystème.
Mais vous avez tapé comme ça à toutes les portes, vous êtes allé où ?
J'ai dû apprendre, j'ai dû rencontrer des gens où ça s'est pas forcément... qui ont pas cru au projet, qui ont pas cru à la volonté. Et finalement, j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment. Où on a
Pierre Gattaz, notamment l'ancien patron du MEDEF.
Pierre Gattaz, qui a été l'un des premiers à nous faire confiance, quand je lui ai parlé de mon projet, en me disant que la question économique était une question hyper importante et que partout dans les territoires, il fallait qu'on insulte cette envie-là. Et il a commencé à me faire rencontrer des patrons de grands groupes, des chefs d'entreprise de PME, de TPE. Et là, j'ai vu qu'en fait, finalement, c'était un écosystème dans lequel il y avait beaucoup d'entraide, de solidarité. Les gens avaient envie de redonner, mais ils ne savaient pas comment faire. Et le projet est terminé, est arrivé au bon moment, et là, ça s'est imbriqué.
Le journal Les Échos a dit de vous que vous êtes l'un des liens les plus actifs entre le monde économique et ceux qui en sont le plus éloignés.
C'est ce qu'on essaye de faire, la passerelle. C'est souvent il peut avoir des a priori de la part des publics que nous on accompagne, les a priori de la part des entreprises. L'objectif et notre mission, c'est vraiment de créer cette passerelle, de faire tomber ces barrières et de faire en sorte que les gens se parlent. Parce que dans la discussion, on peut travailler ensemble.
Combien vous avez fait sortir de boîtes, de terres, de jeunes entrepreneurs ?
Aujourd'hui, en quelques années, en cinq ans et demi, c'est plus de 4500 personnes sensibilisées. C'est 500 personnes qu'on a accompagnées entre 6 mois et un an. C'est plus de 300 entreprises créées. 80% de ces entreprises, elles sont encore en vie 3 ans après. Covid, pas Covid. 40% de ces entreprises ont entre 2 et 10 salariés. Donc, c'est des entreprises qui vont se créer, qui vont créer de l'emploi. 63% de femmes dans nos programmes. Donc du coup, il y a une vraie dynamique qui est impulsée au-delà de la moyenne nationale. Et là, l'objectif, c'est de continuer, c'est de vraiment amorcer, de trouver des moyens financiers pour aider ces entrepreneurs à décoller, quoi.
Mais Moussa Camara, finalement, pour un gosse de quartier ou un gosse de la ruralité, est-ce que c'est pas plus facile de monter sa boîte que se faire embaucher ?
C'est ce qu'on dit souvent, mais moi, la réalité, c'est que c'est pas une question de là où on vient. Entreprendre, c'est difficile. Peu importe qu'on soit d'un quartier, pas d'un quartier.
C'est pas une question de territoire.
C'est pas une question de territoire, mais c'est vrai que dans certains territoires, c'est encore plus difficile qu'ailleurs. Mais l'entrepreneuriat peut être un puissant levier d'inclusion sociale, économique. Et nous, c'est ce qu'on essaie de pousser à fond partout où on déploie nos programmes.
Quand Moussa Camara, gosse de Cergy, enfant d'une famille de 8 enfants, fils d'un immigré malien, devient chevalier de l'Ordre du Mérite. Qu'est-ce qu'il ressent ?
Moi, c'était une belle surprise parce qu'on ne s'y attend pas à ces choses-là. Et quand on porte un projet comme le nôtre, c'est un projet où on est dans l'humain, on ne fait pas ça pour avoir des récompenses ou d'être reconnu et tout. Mais c'est une belle reconnaissance. Moi, ce que je me dis, c'est que c'est bien, ça motive, ça reconnaît le travail qu'on fait, mais le travail n'est pas fini. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il ne faut pas se laisser prendre par toutes les récompenses qu'on peut avoir. Moi, je pense que, vu la situation
en France... Le travail et le mérite, c'est un mot qui résonne chez vous ?
Bien sûr, le mérite, c'est un mot sur lequel la méritocratie, pour moi, aujourd'hui, il faut redonner le sens de noblesse à la méritocratie. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui font des belles études, qui ont fait un bon parcours. Malheureusement, à l'arrivée, ils n'arrivent pas forcément à trouver un emploi, à avoir les mêmes chances de réussite que les autres. Et nous, notre but, c'est vraiment de rapprocher tout ça, faire en sorte que demain, on soit dans une société où nos enfants vont grandir, vont naître dans cette société, où ils auront toutes les mêmes chances que les autres, et de faire en sorte que, parce qu'ils auront travaillé, parce qu'ils se sont investis, qu'ils puissent avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir mener un projet à bout. Et ça, c'est l'objectif qu'on se donne avec les déterminés. On s'y attelle tous les jours.
Anne Hidalgo a présenté sa candidature hier. Elle se présente comme la candidate pour tous les enfants de France. Vous y croyez ?
Moi, je n'ai pas forcément d'avis à donner là-dessus, mais je pense que...
Vous suivez la politique ?
Je suis la politique, je suis tout ce qui se passe. Et je pense que voilà, il faut... De toute façon, aujourd'hui, on est dans une société qui est diverse. Et on ne peut pas s'adresser à une partie de la population. Je pense qu'il faut s'adresser à toute la population. C'est comme ça qu'on arrivera à avoir une société vraiment apaisée, une société unie, une société où tout le monde peut s'en sortir. Et je pense qu'on est dans un beau pays. Il y a des choses très positives qui se passent. Moi, je vais partout en France, dans les territoires, partout. Je vois qu'il y a une vraie énergie, une vraie dynamique. Malheureusement, on ne met pas assez en avant. Et c'est ça qu'il faut valoriser. Et je pense qu'il y a un vrai défi aujourd'hui. C'est le défi de faire en sorte que nos générations, la jeunesse d'aujourd'hui, puissent se dire que je suis dans un pays, je n'ai pas besoin d'aller dans un autre pays pour pouvoir réussir.
Mais c'est quoi la République pour vous ? C'est quoi la République en un mot ? Enfin, ou en quelques mots ?
En quelques mots, la République, c'est la fraternité, c'est l'équité, c'est l'égalité. C'est de faire en sorte que ce n'est pas la question d'où on vient, ce n'est pas la question de ce que... Le parcours qu'on a eu, c'est la question de ce qu'on peut faire. Comment on peut faire pour faire en sorte qu'on améliore notre société. Et je pense que chacun, on a tous une responsabilité à avoir sur la question.
Et vous l'avez prise, votre responsabilité. Merci beaucoup Moussa Camara de l'association Les Déterminés.
Merci à vous pour votre invitation.
Notre travail, faire tomber les barrières et créer des passerelles, vient de nous dire Moussa Camara. Les chiffres de création d'entreprise, en tout cas que vous avez cités, sont impressionnants et on a bien entendu votre détermination. Restez avec nous dans un instant, l'œil de Philippe Cavrivière. Merci et bonne journée sur RTL.
RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
7h57, Alba, Louis et Moussa Camara sont restés avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bonjour à tous. Il y avait deux grandes dates historiques selon vous ce week-end.
Oui, ce week-end c'était les 10 ans de The Voice et les 20 ans du 11 septembre. Et on se rappellera à vie où on était au moment où on a vu sur nos télévisions.
Ouais, salut, c'est Nikos, bienvenue dans The Voice.
C'est vrai que c'est marrant.
Oui, ça, c'est sûr. Vous êtes content, en tout cas, que notre invité Moussa Camara reste avec nous pour vous écouter.
Moi, oui. Mais le parcours de Moussa Camara, chevalier de l'Ordre National du Mérite, entrepreneur de talent, fout un peu en l'air les théories de notre invité de demain, Éric Zemmour. Donc, je vous demanderai un peu de discrétion sur vos succès, un peu d'humilité, monsieur. Samedi soir, chez Laurent Ruquier, mon Éric Zemmour a redéfendu sa théorie du prénom français. Pour lui, Zinedine Zidane devrait s'appeler Jean Zidane. Oui, Jeannot Zidane, c'est bien. Donc, Moussa Camara en prévision de 2022. Faudrait me changer le prénom. J'avais Christian, vous proposez. Christian Camara.
Christian Camara.
Ou Bertrand Camara. Ah, oui. Régis, on aime bien Régis.
Ah oui,
c'est joli
aime
ici. Je vous propose pas Louis ou Yves, c'est un peu désuet, un peu suranné.
Alors, samedi soir, Éric Zemmour n'a pas confirmé sa candidature à la présidentielle.
Oh oui, Éric Zemmour est donc venu pour dire rien du tout. Voilà.
C'est pour dire rien du tout.
Voilà. Alors, je mets en garde Alma Ventura. Hein, ils se sont fait avoir chez Ruquier samedi soir, il est venu dire rien du tout. Voilà. Si demain il revient chez nous pour dire rien du tout, ça a commencé à être lourd en fait.
Ah là là. En tout cas, il y en a une qui a été beaucoup plus claire, c'est Anne Hidalgo, elle est candidate à la présidentielle.
Et dire que Bébel a raté ça, à 4 jours près. Oui, il aurait été tellement heureux. Oui, alors, une femme candidate, certains sont pour. Yves Calvi me confiait hors antenne, on va encore rien pouvoir dire sous prétexte que c'est une gonzesse. Moi j'ai lu son programme, Anne. Il est bien. Elle a promis même une déconstruction de quelques pistes voiturables.
Ah oui,
c'est bien aimable, elle.
Oh bah oui, c'est beaucoup. Hier, Marine Le Pen a elle aussi fait sa rentrée politique à Fréjus.
À Fréjus, c'est chez moi. Le Dubaï des racistes. Bon, en fait, elle a fait un carton, mais elle joue à domicile. Et au niveau municipal, ça va. C'est au niveau national que ça bloque un peu.
Oui.
Marine cherche toujours à se faire péter son petit plafond de verre.
Bon, alors, deux derniers points. Hein, on commence avec les manifs. Chaque samedi, les antivax sont de moins en moins nombreux.
Il reste que quelques antivax. Oui. Qui sont perdus dans le doute, qui ne savent plus qui croire. Bruno Bergamann, chef du service de réa de la Riboisière pro-vaccin, ou Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard, qui est chevalier de l'ordre national du Ricard. Alors moi, je pense qu'il faut prendre chaque personne sur sa spécialité. Par exemple, météo, on prend Louis Baudin, politique, Alba Ventura, économie, François Langlais. Pour tout ce qui est huile d'olive, Yves Calvi. Voilà. Et vous avez remarqué que notre Yves Calvi n'est vraiment heureux que pendant la chronique de Cyril Lignac. Ah oui, c'est vrai, Cyril, on peut rajouter une sauce au poivre et des oignons frits. Le reste de la matinale passe dans une espèce de léthargie.
Serais-je démasqué? Alors, un mot du procès du 13 novembre qui reprendra tout à l'heure.
Très vite, oui. Salah Abdeslam et ses best friends forever. On dirait un boys band qui se sépare, dont le leader tente une carrière solo. Je ne sais plus qui disait, c'est Philippe Nicolic ou le Mola Omar qui disait « Martyr un jour, sans retour, effacer notre amour ». C'est Philippe Nicolic.
Merci Philippe. Bonne journée à vous, Moussa Camara. Vous êtes le bienvenu. Et bon, on va faire deux doigts de météo si vous voulez bien, Jodin.
On va faire deux doigts. Effectivement, avec encore beaucoup de soleil aujourd'hui, quelques passages nuageux quand même ce matin au nord de la Loire et des nuages un peu plus denses et un peu plus menaçants cet après-midi de la Bretagne aux Pyrénées avec un risque d'averse et même d'orages, notamment au sud de la Garonne. Attention à ces orages en cours de soirée. Ailleurs, donc, le soleil dominera encore. Petit risque d'averse autour du golfe du Lion. Les températures en hausse, 20-23 degrés près de la Manche, 24 à 28 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 28 à 31 dans le sud.
Merci Louis. RTL, il est 8h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, la détresse d'un père à qui la justice vient de retirer ses deux enfants.
3 ans qu'il vivait avec eux et qu'il refusait de les rendre à leur mère, dont le nouveau compagnon est soupçonné d'inceste et de violence. Un conflit déchirant sur lequel nous allons revenir. Le retour d'Alexandre Benalla, jugé à partir d'aujourd'hui pour l'affaire qui avait secoué le sommet de l'État. Vaccinés ou renvoyés après-demain, les soignants n'auront plus le choix dans les hôpitaux. C'est un casse-tête sans nom pour établir les planning. Et puis à suivre également le dédoublement des classes de primaire. L'enquête de la Brigade RTL après 3 ans de mise en place. Et vous le verrez, les résultats sont au rendez-vous.
Cyprien Sini, le surf de l'info.
Anne Hidalgo, une candidature qui démarre à 30 à l'heure.
On vous retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
Nous allons partir à Saint-Pargoire dans l'Hérault pour démarrer ce journal à la rencontre de Marc, père de 2 enfants, un fils de 10 ans, une fille de 11 ans, qui jeudi dernier lui ont été retirés à la sortie de l'école.
Voilà, on me prend les enfants devant le collège et devant l'école pour les mettre chez quelqu'un qui est accusé de viol et d'inceste sur sa propre fille. Regardez, voilà la police.
Extrait d'une vidéo qu'il a lui-même filmée, il n'a pas pu approcher car la justice a tranché. Les enfants qui vivaient avec lui depuis 3 ans doivent être rendus à leur mère. Le problème, et vous venez de l'entendre, c'est le compagnon de celle-ci, soupçonné de violence et d'inceste. 14 plaintes ont déjà été déposées. Bonjour Patrick Hisson.
Bonjour.
Vous suivez cette histoire pour RTL. Ce matin, ce père en appelle directement au ministre de la Justice. Pour lui, impossible d'imaginer ses enfants vivre sous le même toit qu'un homme, sous le coup de plusieurs enquêtes judiciaires.
Exactement, et depuis jeudi, depuis le départ de ses enfants, Marc Martin a beaucoup de difficultés à trouver le sommeil, dévasté et révolté par cette décision de confier la garde à la mère des enfants.
Franchement, je suis au fond du seau. Je suis le nouveau compagnon de mon ex-femme, donc est accusé d'inceste sur mineur. C'est hors de question pour moi. Enfin, c'était hors de question qu'il côtoie un tel individu, en fait, le temps de la procédure, ou au moins que de savoir qu'est-ce qu'il a fait vraiment. On me reproche d'être peut-être trop anxiogène, mais qui ne le serait pas? Les enfants sont très heureux. J'en appelle vraiment au ministre de la Justice, et je demande aussi à tous les papas et à toutes les mamans de se réveiller. C'est impensable, en fait, de pouvoir protéger des enfants en les mettant dans un lieu comme ça.
Dans son village de Saint-Pargoire, Marc est soutenu par de nombreuses mamans qui ont assisté impuissantes devant l'école au départ des deux enfants, Audrey, l'une d'entre elles.
Je trouve ça complètement lamentable, quoi. Quand vous voyez un gosse en train de pleurer, de réclamer son papa, on ne peut que se sentir mal.
Pourquoi vous soutenez, vous, le maire du village également, Marc?
Parce que c'est un bon père, il s'occupe très bien de ses enfants. Pour moi, oui, je pense que c'est risqué là où il se trouve.
Et ce matin, le papa est d'autant plus inquiet que depuis jeudi, et malgré ses demandes téléphoniques répétées, il n'a aucune nouvelle de ses enfants.
Patrick Hisson, correspondant de RTL en Occitanie, sachez que la mère des enfants a refusé de répondre à nos questions. Son avocate estime que le père, lui, est instable.
8h04, un mort et 4 blessés dans le crash d'un hélicoptère hier en Isère. Gérald Darmanin est attendu sur place dans la journée.
Il s'agit d'un appareil de la sécurité civile parti pour secourir un randonneur en VTT. Il s'est écrasé peu après son décollage. Le mécanicien a été tué. Les 4 autres passagers ont réussi à s'extirper avant l'explosion. Écoutez ce témoignage exceptionnel. Mathilde était à 50 mètres des lieux du crash.
Ah oui, non mais vraiment on était juste à côté. À la base en fait on s'est arrêté parce qu'il tournait un peu bizarrement, donc on a regardé, on a arrêté de bouger pour voir s'il voulait se poser à un endroit. Et du coup en voyant qu'il s'est crashé, on est parti en courant. J'ai eu très peur que l'hélicoptère me tombe dessus. Le crash a été très impressionnant, il y a eu des éclats dans tous les sens. Quelques secondes après ils ont réussi à sortir de l'hélico et ils ont eu un peu de mal visiblement à faire sortir une personne. Et après ils ont réussi à se décaler à temps et ça a pris feu, ça a explosé plusieurs fois. Après, les pompiers sont arrivés pour éteindre le reste de ce qui restait, mais il ne restait plus rien.
Un témoignage RTL recueilli par Serge Peuillot.
L'ultimatum approche pour les soignants. Après-demain mercredi, ceux qui n'auront pas reçu au moins une dose de vaccin ne pourront théoriquement plus exercer.
Et tout cela est théorique évidemment, mais c'est la loi. Alors les hôpitaux, les EHPAD s'y préparent et ce n'est pas sans poser quelques soucis d'organisation. Illustration ce matin au groupe hospitalier Nord-Essonne. 2900 agents, 4% n'ont toujours aucun justificatif. Cela peut paraître peu, mais c'est tout de même plus d'une centaine de personnes et pour boucler les plannings, c'est le branle-bas de combat. Reportage signé Odile Pouget.
Comme chaque matin, réunion de crise dans le bureau du directeur.
Si j'ai bien compris, on a 4 infirmières anesthésistes qui refusent absolument la vaccination.
On a 2 qui refusent.
Cardiologie, réanimation, psychiatrie, recensés ce jour-là 120 soignants qui risquent mercredi de manquer à l'appel.
Et aussi des adjoints administratifs, c'est-à-dire une secrétaire.
Depuis plusieurs semaines, la direction de l'hôpital redouble d'efforts. 200 courriers de rappel envoyés cet été, des dizaines d'entretiens individuels pour tenter de convaincre.
Patient numéro D20 est attendu au guichet.
9 étages plus haut, on croise.
Béatrice, je suis cadre sur le service de pédiatrie et des urgences pédiatriques.
Dans son service, justement, 2 infirmières et une auxiliaire de puériculture réfractaires au vaccin ont été contaminées cet été et sont pour l'instant exemptées d'injection.
Donc elles ont 6 mois devant elles pour prendre leur décision, savoir si elles vont se faire vacciner ou pas. Donc enfin, mon planning va tourner, par chance. C'est très compliqué, oui, à gérer, surtout en ce moment où l'afflux a repris.
Compliqué aussi pour Corinne Lucas, cette cadre chargée des pôles anesthésie, chirurgie, bloc opératoire, s'arrache les cheveux à la vue de son planning.
Sans infirmière anesthésiste, un bloc ne peut pas tourner. Et là, par exemple, pour l'instant, je n'ai que 2 salles ouvertes. Je vais essayer de monter à 3.
3 blocs ouverts sur 5, avec à la clé le risque de déprogrammer des interventions. Son job, c'est donc l'anticipation et la débrouille.
On essaye d'employer des vacataires, on fait des demandes d'intérim. Et en intérim, il n'y a pas grand-chose. Et en vacataire...
Dans le bureau de Cédric Lucier, le directeur du groupe hospitalier, la réunion est à présent sont terminées.
Je reste un peu optimiste, je me dis que la raison va l'emporter. On a tous les jours des indécis qui franchissent le pas. C'est ce qui va sauver l'hôpital.
Quant aux premières lettres de suspension, elles partiront dès le 15 septembre.
Un reportage signé Odile Pouget.
Dans un instant, le revoilà, Alexandre Benalla, jugé 3 ans après la fameuse affaire. On vous en dit plus dans quelques instants sur RTL. Il est 8h07.
RTL Matin.
RTL 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. Voilà une affaire qui a largement perturbé le sommet de l'État quelques mois après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron.
Ouais, et ce nom Benalla, celui du chargé de mission proche du couple Macron et dont les dérapages vont faire vaciller durant des semaines le chef de l'État et son entourage. 3 ans après, Alexandre Benalla est donc jugé pour violence commise lors d'un rassemblement du 1er mai, utilisation frauduleuse de passeports diplomatiques et détention d'armes illégales. Le jeune homme qui, après s'être montré plutôt provocateur les premiers mois qui ont suivi l'affaire, a décidé aujourd'hui, Thomas Proutot, de faire profil bas.
Oui, discrétion, discrétion et discrétion, c'est le nouveau mantra d'Alexandre Benalla. Il nous est répété à l'envi par un proche que RTL a pu joindre avec l'accord de l'intéressé. Il a pris beaucoup de coups, il ne veut plus s'exposer à la lumière, précise cet ami qui lui a parlé la semaine dernière. Alexandre Benalla réserve donc ses déclarations à la justice et se dit impatient, je cite, de dire sa vérité lors du procès. Finit donc officiellement les coups d'éclat. Le jeune homme qui vient de fêter ses 30 ans a même effacé tous ses messages sur Twitter. Un réseau où il alternait coups de griffe politique et blagues potaches. Reste 3 commentaires sur la présidentielle à venir. Et la discrétion d'Alexandre Benalla s'étend à ses activités professionnelles. Épaulé par une figure trouble des réseaux d'affaires franco-africains, il a fondé il y a 2 ans un groupe spécialisé dans la cybersécurité et revendique de nombreux clients. Mais le chiffre d'affaires reste inconnu. Côté politique, enfin, ni Alexandre Benalla ni l'Élysée n'ont souhaité faire de commentaires sur l'état de ses relations avec Emmanuel Macron.
Thomas Proutot.
C'est cette semaine que démarrent les évaluations en CP, en CE1 et en 6e qui permettent à l'éducation nationale de mesurer chaque année le niveau des élèves.
Oui, c'est une partie de l'arsenal mis en place au début du quinquennat pour lutter contre l'échec scolaire. L'autre mesure phare et emblématique concerne le dédoublement de certaines classes dans les réseaux d'éducation prioritaire. Pas un déplacement à l'école sans que le ministre ou le président lui-même ne vante le dispositif. Alors après 4 ans d'expérimentation, est-ce réellement efficace? C'est l'enquête ce matin de la brigade RTL. Bonjour Marie Garrier.
Bonjour.
Alors les résultats sont-ils meilleurs?
Selon les premières remontées, oui, l'écart a commencé à se réduire un peu entre les élèves en réseau d'éducation prioritaire et les autres. La mise en place du dispositif a été progressive et aujourd'hui, toutes les classes de grande section CP, CE1 en REP et REP+ sont dédoublées, ça concerne 330 000 élèves. Pour faire des comparaisons, on se base sur les évaluations passées en CP et CE1 dont vous venez de parler. Un exemple, pour la maîtrise satisfaisante de la lecture en début de CE1. En 2018, on était à 58% des élèves dans les quartiers défavorisés, contre 70% hors réseau d'éducation prioritaire. En 2019, on est passé à 62% contre 72%, donc tout le monde a progressé et l'écart s'est réduit de 2 points. C'est donc un début, il y a encore de très grosses faiblesses, notamment la compréhension en français, la résolution de problèmes en maths, et en 2020, la pandémie n'a pas aidé.
Bien sûr. Marie, vous aviez suivi à l'époque des élèves de CP, c'était donc il y a 4 ans.
Oui, dans les tout premiers CP dédoublés, et je suis retournée les voir à l'école Albert Camus de Creil, dans l'Oise, un réseau d'éducation prioritaire renforcé. Hamza, Fatima, Adam, Gabriel et les autres avaient Peggy comme enseignante en CP.
Vous vous souvenez?
On était tout bien organisés.
Moi, je vous trouvais épanoui, bien dans vos baskets. Ils ont gagné en confiance parce qu'on était là près d'eux dès le début.
Si seulement on pourrait revenir dans le passé.
Ça leur a fait tout drôle quand ils sont arrivés ensuite dans les classes à effectif complet.
La maîtresse, elle essaie d'interroger tout le monde, mais c'est un peu plus compliqué.
À 12, c'était beaucoup plus calme.
Quand le directeur Xavier Bulliard compare ses résultats avec les autres écoles du secteur, il constate...
On est passé de la dernière position à milieu du tableau. C'est encourageant.
Et ces CP de 2017, Marie, ils sont aujourd'hui en CM2.
Oui, notamment dans la classe d'Angelina.
Y en a certains qui décodent à peine, alors que d'autres ont une fluidité dans la lecture impressionnante même.
Toutes les difficultés ne sont pas gommées, mais pour Marine, enseignante de CM1, le dédoublement a d'autres effets.
Moi, j'ai remarqué que les élèves étaient beaucoup plus impliqués dans leur rôle, qu'ils étaient plus actifs dans les apprentissages.
En CE1, les enseignants, dans leur classe à 12, font quasiment du cas par cas.
Le fait qu'ils soient moins nombreux, on les connaît mieux. On a le temps de comprendre leurs difficultés, de les solliciter individuellement.
Ils se sentent plus à l'aise à l'école, en fait.
Et chacun à sa place. On n'a laissé personne de côté, quoi.
Alors l'objectif du ministre Jean-Michel Blanquer était 100% de réussite en CP et CE1. On n'y est pas, mais c'est 100% de progrès, disent les enseignants. Et ce qui se joue là, dans la lutte contre les inégalités sociales, ne pourra se mesurer qu'à long terme.
Notre brigade RTL avec Marie Guerrier.
La politique et Anne Hidalgo qui s'est officiellement lancée hier matin dans la course pour 2022. La maire de Paris avait choisi Rouen en Seine-Maritime pour annoncer sa candidature. Elle qui dénonce une France, je cite, désunie comme jamais. Édouard Philippe met fin, lui, aux spéculations autour de ses intentions réelles pour l'an prochain. Aucune hésitation pour l'ancien Premier ministre. Le candidat, c'est Emmanuel Macron.
Pour l'élection présidentielle de 2022, je soutiendrai le président de la République. Pendant 3 ans, j'ai été son Premier ministre. Je ne vois pas comment aujourd'hui je pourrais, d'ailleurs j'en ai aucune envie, dire mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire ou ah si on avait fait autre, voilà.
L'Edouard Philippe hier soir chez nos confrères de TF1, Aurélie Herbemont, la loyauté aurait donc motivé cette décision. Disons qu'il a été gentiment incité à sortir du bois et pas trop tard.
Ça devenait toxique, lâche un macroniste. Il faut dire que la création de son parti, prévue les 8-9 octobre au Havre, avec ses amis maires de droite modérée, nourrissait les spéculations et parfois un certain agacement. Il ne fallait pas laisser dire que ça pourrait être une écurie présidentielle, tranche un proche d'Edouard Philippe. Ce parti sera donc au service de la réélection du chef de l'État, dans un premier temps, et au service des idées de l'ancien Premier ministre. Il veut peser dans l'éventuel prochain quinquennat sur les questions de dette et de finances publiques, insiste un de ses amis, et prendre le leadership sur l'aile droite de la majorité. Il veut être l'héritier, décrypte un ministre de gauche. Si le président est réélu, la bataille pour la succession de 2027 pourra donc commencer instantanément.
Merci Aurélie Herbemont. Et puis notez enfin que Marine Le Pen, qui s'est officiellement lancée en campagne, a cédé hier les clés du parti au vice-président Jordan Bardella.
Et le journal nous a été proposé par Dominique Tenza. On va rester dans la politique dans un instant avec Cyprien Signy et la candidature d'Anne Hidalgo.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signy.
Mais oui, et à 8h18, vous surfez évidemment avec la candidature d'Anne Hidalgo.
Non mais ah, j'en suis tombé de l'armoire. Ah oui. À deux doigts de m'étouffer avec ma cracotte quand vers 11h hier, j'ai entendu...
J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française.
Anne Hidalgo, la Anne Hidalgo qui au moment des municipales disait ici même sur RTL dans ce studio:
j'ai vraiment envie d'être là sur toute la durée du mandat et je le redis ici, je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle de 2022 et même au-delà.
Oh là là, même au-delà, attendez.
Nous l'avait dit les yeux dans les yeux.
Oui, qui promettait tellement de faire tout son mandat de maire, qui disait sur la présidentielle:
non, surtout pas.
Vous pouvez archiver, alors là, allez-y, vous verrez, je suis quelqu'un de très clair.
Ah bah oui, on a bien archivons. Fait d'archiver, oui, c'est très très clair. Hein. Surtout qu'il y a 2 ans, elle précisait en regardant la caméra de Télé Loisirs les yeux dans les yeux:
je n'ai pas envie de cette vie-là, voilà. Non, non, présidente de la République, ça fait pas partie de mes rêves de petite fille, donc non.
Ah bah si, finalement, ah si. Bon. Hein. Elle commence bien cette campagne, dites donc. Puis bon, on va pas se mentir, hein. Anne Hidalgo, bah c'est Paris, quoi.
C'est pour Paris que je me suis engagée. Cet engagement est devenu ma vie, une vie. Avec les Parisiennes et les Parisiens.
7 ans qu'elle est maire, 20 ans qu'elle est à la mairie. Et pour décoller cette étiquette parisienne, elle sait qu'elle va ramer, alors elle se déclare...
Dans cette belle cité de Rouen.
À Rouen, pardi, en Normandie. Une Parisienne en week-end en Normandie, dis donc, c'est original ça. Mais ne soyons pas mauvaise langue.
J'ai parcouru la France. De Quimper à Frontignan, de Douai à Clermont-Ferrand.
Oui, elle a bossé sa France des territoires. C'est en bon. Même temps, fallait. Hein. Je vous rappelle qu'au moment du couvre-feu à 18h, elle voulait une exception spéciale pour Paris, car...
À 18h, on est en milieu d'après-midi à Paris. Hein.
Et oui, alors c'est vrai qu'en province, à 18h...
Il est 18h.
Un suppôt et au lit.
Ben oui, à 18h en province, c'est un suppôt au lit. Ça dérangeait personne, le couvre-feu à 18h. Bref, changer d'image donc et se présidentialiser. Mais ça c'est bon, hein, elle est déjà copine avec des stars internationales.
I'm very pleased to welcome my friend Arnold Schwarzenegger. Dear Arnold, you are an inspiration.
Schwarzy pour le côté people, on est bon. Sur le côté politique international, bon, on a une vision avec une vraie analyse de fond. En plus, en anglais, dites-moi.
Our mission and... Mr. Trump is so stupid, my God,
c'est bon, elle est prête. Non, faudra juste penser à faire un peu de yoga pour la détente, parce que c'est vrai qu'elle est parfois un peu de mal à cacher à son agacement quand une question l'ennuie.
Les itinéraires des uns et des autres, je vais vous dire, j'en ai rien à battre. Voilà.
Hop, décidément, j'ai vraiment hâte qu'elle démarre pour deux, bon, cette présidentielle.
Bien entendu, merci Cyprien, on vous retrouve ce soir dès 18h40 pour défaire le monde, entouré de votre équipe.
L'info autrement ce soir.
Dans deux jours, nombre de professionnels de santé devront être vaccinés pour continuer à exercer leur métier. C'est l'obligation vaccinale. Faut-il redouter une pénurie de soignants? Notre système de santé va-t-il encore être un peu plus mis à l'épreuve? Nous serons dans un instant avec Benoît Elbeud. Ce sera avec... directeur général, pardonnez-moi, de l'Agence régionale de santé de la région Nouvelle-Aquitaine. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin. Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Il est 8h25. Bonjour Benoît Elbeud.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'Agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine. Et dans deux jours, mercredi 15 septembre, l'obligation vaccinale pour les soignants va entrer en vigueur. Êtes-vous inquiet de la situation que vous allez retrouver dans 48 heures ?
Écoutez, vous m'auriez posé la question il y a quelques semaines, j'étais un petit peu inquiet parce que les chiffres pouvaient nous inquiéter, parce que même si déjà une grande majorité des professionnels de santé étaient vaccinés, un faible nombre de non-vaccinés aurait pu déstabiliser le système de santé.
Oui.
Mais quand je vois la progression de la vaccination chez les professionnels de santé et qui va encore durer jusqu'à dans deux jours, je suis moins inquiet et je pense qu'on n'aura pas de déstabilisation du système.
Combien de professionnels de santé ont reçu au moins une dose de vaccin? Est-ce que vous avez des chiffres? Et j'ai envie de vous dire, combien de professionnels ne sont pas encore vaccinés? Enfin, on peut le faire dans un sens ou dans l'autre, ça revient au même.
Alors, en fonction des catégories de personnel, on a des chiffres avec des sources d'informations différentes.
Oui.
Pour les professionnels de santé libéraux, on a des chiffres très clairs, puisque l'assurance maladie peut directement faire le lien entre les professionnels de santé libéraux et ceux qui sont vaccinés.
Oui.
Aujourd'hui, on est à plus de 95%. Il restait au 7 septembre un peu plus de 2000 professionnels de santé libéraux non vaccinés. Dans les EHPAD, on est à peu près à 90% des personnels qui étaient vaccinés aussi la semaine dernière. Donc, on a encore une semaine de vaccination de rattrapage. Dans les établissements de santé, c'est un peu plus compliqué parce que, comme vous le savez, il y a eu des consigne syndicale de déclarer son statut vaccinal qu'à la dernière minute, mais quand on interroge les directeurs
d'établissement... Pardonnez-moi, je vous interromps pour nos auditeurs. Vous voulez dire que les syndicats n'ont pas joué la partie et qu'ils ont retenu leurs informations ?
Certains syndicats et dans certains établissements. Il y a des établissements où ça pose pas de problème et puis il y a des établissements où il y a eu un petit forcing.
D'accord. J'ai l'impression que les chiffres que vous nous donnez là sont plutôt optimistes et de bon augure.
Alors c'est optimiste, d'autant plus que ça ne prend pas en compte un certain nombre de personnes qui ont un certificat de contre-indication ou qui ont été malades depuis moins de deux mois et qui ne peuvent pas encore se faire vacciner et qui eux peuvent venir travailler sans problème. Et puis ceux qui bien sûr restent à vacciner, puisque ce sont des chiffres qui ne datent pas du jour mais de la semaine dernière, donc il reste une semaine encore pour les derniers rattrapages.
Avez-vous des chiffres sur les éventuelles démissions ou départs volontaires pour cause d'obligation vaccinale ?
Alors pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres, puisque bien sûr, ça dépendra de la situation au 15 septembre où il faut minimum une dose. On sait que ça va avoir lieu. On a déjà des retours sur quelques professionnels, mais c'est vraiment, jusqu'ici, les retours qu'on a sont anecdotiques.
Bon, donc, bilan des courses réelles le 15 septembre, nous sommes bien d'accord.
Bilan des courses le 15 septembre, et c'est vrai que, encore une fois, ça s'est accéléré pour quatre raisons. D'abord parce que tous les professionnels ont compris que cette obligation était pérenne. Vous savez, certains pensaient que quand on n'aurait plus de pass sanitaire, parce qu'un jour le pass sanitaire ne sera plus obligatoire, ils pensaient que l'obligation vaccinale allait tomber. C'est pas le cas. Et donc, on a toute la vie des professionnels et toute l'année pour les contrôler, appliquer les sanctions prévues. Et puis, comme beaucoup aussi se reposaient sur le fait en se disant, mais de toute façon, ils ne pourront pas appliquer cette obligation vaccinale parce que le système ne tiendra pas. Et plus on avance et plus on voit que le système tiendra, plus cet argument tombe et ça aide aussi à la vaccination. Et
quels sont les secteurs où vous craignez d'avoir éventuellement des manques ou des difficultés ?
Alors les secteurs où on le craint le plus, ce sont surtout les petites structures et les petites EHPAD.
Oui.
Puisque là, un professionnel, quand vous avez deux infirmières, si une infirmière n'est pas vaccinée, ça peut poser des graves problèmes. C'est pour ça que nous avons maintenu ce qui avait été mis en place pendant le Covid, quand on manquait de professionnels. On a maintenu le dispositif qui permet aux EHPAD de faire appel à des professionnels de santé libéraux pour pouvoir venir en soutien en cas de manque de personnel.
Comment expliquez-vous que les libéraux y aillent plus facilement que les autres ?
Oh, ils y vont pas plus facilement. Je pense qu'on a des chiffres plus précis pour les libéraux.
J'ai une petite idée, c'est que justement qu'ils sont libéraux et que du coup, il faut qu'ils travaillent. Enfin, pardonnez-moi de le dire brutalement.
Exactement, il faut qu'ils travaillent, ils peuvent avoir des amendes. Mais vous savez, c'est pareil pour les salariés, parce que s'ils ne sont pas vaccinés, ils seront contrôlés et leur rémunération va s'arrêter. Ouais. Donc ils sont dans la même situation.
Je vous trouve ce matin plutôt optimiste. Est-ce que vous pensez en fait que les réseaux de contraintes, puisqu'il faut bien parler de réseaux de contraintes, ont fini au bout du compte par fonctionner ?
Je pense qu'ils ont fini par motiver en tout cas une tranche qui pouvait, comme je vous le disais en début d'interview, qui pouvait m'inquiéter il y a quelques semaines. Et on sait qu'il va falloir lancer des contrôles très rapidement. Hein, dès l'obligation vaccinale, on va lancer des contrôles pour essayer de convaincre les derniers réfractaires. Mais s'agissant des professionnels de santé, ça fait quand même plus d'un an hein, oui. qu'ils peuvent se faire vacciner. Donc on a eu un large temps pour la pédagogie.
Merci beaucoup Benoît Elbeut d'avoir pris la parole et d'être ce matin optimiste sur l'antenne d'RTL. Vous êtes le directeur général de l'Agence régionale de santé de la région Nouvelle-Aquitaine. Il est 8h30, c'est donc le moment de nous intéresser à notre météo à 7 jours. Louis Baudin, nous vous écoutons bien entendu.
Et là, ça va être une semaine alternative avec des journées avec des averses, des journées avec de belles éclaircies. Alors aujourd'hui, on l'a dit, c'est plutôt les belles éclaircies. Demain, ce seront plutôt les averses avec passage d'une perturbation plus ou moins instable qui va traverser toute la France d'ouest en est. Donc à un moment ou un autre, on aura des passages nuageux, des averses, entrecoupées quand même de quelques belles éclaircies. Merci. Toutes les régions seront concernées, sauf peut-être le littoral méditerranéen et encore. Les températures à peu près de saison, entre 20 et 25 degrés l'après-midi dans la moitié nord, 25 à 30 dans le sud. Mercredi, encore quelques averses dans les régions de l'est et du sud, mais dans le nord-ouest, on trouvera déjà quelques éclaircies. Plus belle pour la journée de jeudi. Puis vendredi, de nouveau, des passages nuageux et pluvieux. Et puis, je vous refais le coup. Pour le week-end prochain, on pourrait de nouveau connaître une belle amélioration, comme celui qu'on vient de connaître, avec un temps plutôt sec, ensoleillé, relativement.
Pas mal, ça sera les journées du patrimoine.
Ce serait pas trop mal, oui.
Vous voulez nous dire un petit mot sur les petits princes ?
Ah oui, hier j'ai eu la chance
Rappelez qui ils sont, en deux mots.
Ah oui, Quentin et Jules, qui malheureusement ont des maladies graves, lourdes. Et puis vous savez, il y a l'association des petits princes qui leur permettent de réaliser leurs rêves. Mmh. Et hier, ils rêvaient d'aller tourner dans un circuit, sur de très très belles voitures. Ils l'ont fait. Et je peux vous dire que d'avoir eu la chance de les croiser, d'être avec eux, ils ont un courage, ils ont une énergie, et moi qu'ils m'ont donné, et que j'avais envie de partager ce matin. Merci. Donc merci Quentin et Jules.
Et merci à vous de partager vos émotions avec nous, Louis Baudin.
Bonne journée avec RTL.
RTL, revivre ensemble.
RTL autour du monde.
Notre rendez-vous quotidien avec nos correspondants. Et d'ici la fin du mois de septembre, 90% de la population espagnole devrait avoir reçu les deux doses du vaccin contre le Covid-19, faisant de l'Espagne en fait le premier leader européen de la vaccination. Et cela sans que le gouvernement de Pedro Sanchez n'ait eu recours à la vaccination obligatoire ou au pass sanitaire pour mener une vie normale. Diane, comment expliquez-vous ce consensus de la vaccination ?
On pourrait penser que les Espagnols sont plus dociles, mais en fait la réponse n'est pas si simple. Plusieurs facteurs expliquent cet engouement pour la vaccination. Historiquement d'abord, la vaccination est bien vue ici. Cela date de l'époque franquiste, lorsque le vaccin contre la polio est arrivé. Cela a été perçu comme un signe de progrès. Il faut savoir qu'avant l'épidémie, les Espagnols étaient déjà les Européens qui se vaccinaient le plus contre la grippe. Il y a aussi une autre raison pour expliquer cette absence de résistance au vaccin, c'est l'impact psychologique de la première vague. Antonio, un sociologue, nous l'explique très bien. On l'écoute.
Il ne faut pas oublier que notre pays a battu le record en nombre de morts de coronavirus au cours de la première vague. Et cela nous a tellement marqué, ces milliers de morts chaque mois en 2020, que les gens ont pris conscience que notre seul espoir était de se faire vacciner. Et je vous assure que durant des mois, on a attendu ce vaccin avec beaucoup d'impatience.
Alors ce qui peut paraître surprenant, Diane, c'est que cet engouement pour la vaccination touche toutes les générations, même les plus jeunes.
Oui, en effet, les seniors ont été les premiers à solliciter le vaccin, mais les jeunes ont également répondu à l'appel très vite. Et beaucoup l'ont fait par solidarité avec les anciens, comme l'explique Lucia, âgée de 25 ans, assise à une terrasse dans le centre de Madrid, qui a reçu les deux doses cet été.
On est tous vaccinés dans notre groupe, comme ça on se sent plus tranquille avec notre famille. Mes parents, mes grands-parents.
Ruben, qui est assis à ses côtés, est aussi un fervent défenseur du vaccin. Comme on peut l'entendre.
Il n'y a aucun doute à avoir. Il faut que tout le monde soit vacciné pour sortir de là et éviter les nouveaux variants.
Alors on a vraiment l'impression que le mouvement anti-vax est quasiment inexistant en Espagne.
Il est totalement minoritaire. Depuis le début de la campagne de vaccination, il y a eu une dizaine de manifestations dans tout le pays. À Madrid, peut-être seulement 2000 personnes se sont réunies au total. Et là, aucune protestation n'est prévue alors que commence la vaccination pour les plus de 12 ans. Seul un artiste farfelu, le chanteur Miguel Bosé, s'est présenté comme le porte-parole des antivax. Mais cela a plutôt porté préjudice au mouvement. Dans ce contexte, on comprend que le gouvernement espagnol n'a pas eu besoin d'imposer le pass sanitaire. Il existe certes des restrictions de mouvement, mais elles sont prises de façon locale. Dans un village où il y a un cluster, des mesures sont prises pour confiner la population durant 10 jours. Mais c'est chaque fois de plus en plus rare, car le taux d'incidence est au plus bas. Du coup, le climat général au sein de la société est beaucoup plus détendu et on oublie presque, je dis bien presque, la présence du Covid.
L'Espagne et le succès de sa campagne vaccinale. Merci Diane Combon, correspondante d'RTL à Madrid. Et pour encore plus d'actualités internationales, vous le savez, notre rendez-vous sur RTL.fr. On retrouve Isabelle Chaud.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Ce matin, Isabelle, gros plan sur une personnalité atypique et controversée, le père Mathieu.
Oui, Le Monde et Le Parisien ont fait ce week-end le portrait de ce jeune prêtre qui détonne. 36 ans, physique de playboy, jean basket et humour toujours. Le curé de la paroisse de Joigny dans l'Yonne est une star dans son genre. 626 000 abonnés sur TikTok, le réseau social des ados, mais sa liberté de ton crispe l'église et certains fidèles. En cause, une vidéo postée fin août. Le père Mathieu répond à une question d'un internaute.
Est-ce que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est péché ? Eh bien, je vais être franc et honnête avec vous, les amis, non. Il n'est marqué strictement nulle part que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est un péché.
Cette vidéo a été visionnée 1 200 000 fois et a déchaîné un torrent de commentaires. Certains s'enthousiasment, réjouissant de voir enfin un croyant ouvert d'esprit. Merci pour cette vidéo courageuse. D'autres évidemment s'indignent. Mon Dieu, pardonne ces faux prêcheurs d'évangile. Tu détournes la Bible et c'est très grave. Le diocèse de Sens Auxerre est assailli de messages. L'archevêque Mgr Giraud est prié de sanctionner ce libre penseur, ce qu'il n'a pas fait à ce jour. La conférence des évêques s'est fendue d'un tweet. Nous désapprouvons certaines de ces vidéos qui dénaturent le message de l'Église. Leur succès d'audience ne signifie pas qu'elle soit juste. Le père Mathieu, lui, enfonce le clou avec un nouveau message.
À tous les homophobes refoulés qui se cachent derrière la religion, laissez-moi vous lire cette phrase du pape François. Si une personne gay cherche Dieu et fait preuve de bonne volonté, qui suis-je pour la juger ?
Le sujet est particulièrement explosif, mais le style, en fait, a toujours été iconoclaste. Le curé 2.0 dépoussière totalement l'image compassée du religieux. On l'a vu, par exemple, jouer les DJ sur l'autel en scratchant avec le calice. Ou filmer une statue de Jésus rénovée façon relooking extrême. Depuis plus d'un an sur son compte, il aborde tous les sujets, la vie, l'amour, la mort et Dieu dans tout ça. Regard azur et sourire charmeur, débit mitraillette, il cite les écritures mais parle sans fioriture, le langage de la rue à hauteur de Benity en quelque sorte. Cet été, un internaute a osé lui demander s'il avait déjà trempé son biscuit. Il a répliqué par une vidéo où on le voit, sourire en coin, l'œil qui frise, en train de plonger un gâteau sec dans un verre de lait. Dans la vraie vie, le jeune prêtre est plutôt discret, il ne donne aucune interview, mais on sait deux, trois choses de lui. Qu'il travaillait comme conseiller en optimisation fiscale,
ah oui.
Ce qui déjà, oui, à l'époque, lui posait quelques petits problèmes de morale. Qu'il avait aussi une fiancée, mais ils ont rompu. Besoin de redonner du sens à sa vie, il quitte Paris pour se mettre au vert, s'engage comme bénévole au Secours catholique et c'est là qu'il découvre sa foi sur le tard. 6 ans de séminaire et le voilà ordonné prêtre il y a 2 ans. Mathieu Jasseron devient le père Mathieu. À Joigny, il ne lui faut que quelques communions pour séduire ses ouailles. Les assemblées seraient 2 fois plus peuplées depuis son arrivée. Et d'ailleurs, jusqu'ici, son succès sur TikTok était plutôt apprécié par l'Église. Son supérieur, Mgr Giraud, le reconnaît. Il a du charisme, c'est un beau gosse, il crève l'écran. Il est très doué, renchérit Vincent Cardo, prêtre de Nogent. En quelques secondes, il réussit à donner envie d'écouter tout son message. Et un cadre de l'Église conclut, il a créé de très belles vidéos, il évangélisait vraiment, mais il s'est laissé embarquer dans un truc qui le dépassait. Sans s'émouvoir, le père Mathieu a repris ses vidéos. Les animaux iront-ils au paradis ? C'est l'une de ses dernières avec Prune, son bulldog. Mais ce week-end, il était aussi question de Théodora, la première sainte trans de l'histoire de l'Église, dit-il. Bah oui, c'est bien connu, hein, la liberté de ton ne suise que si l'on ne s'en sert pas.
C'est très très clair. Merci beaucoup Isabelle Choquet, à demain matin avec grand plaisir.
RTL, vous êtes comme ça.
Et nous vous emmenons ce matin sur le toit d'un hôtel bien particulier du centre-ville de Nantes. 800 mètres carrés de toiture en ardoise qu'une entreprise de Saint-Herblain est en train de rénover avec deux apprentis. Noémie a 23 ans, Julien 26, deux ex-étudiants qui ont quitté les bancs de la fac après la licence pour devenir couvreurs-zingueurs. Bonjour Patrice Gabart.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Mais qu'est-ce qui conduit ces jeunes gens, dits Bac plus 3, à se reconvertir dans un métier manuel ?
Eh bien pour le savoir, j'ai d'abord rejoint Julien qui a validé sa licence de linguistique à Lyon 2 en 2018 sur l'une des magnifiques tourelles de cette toiture au dernier étage de l'échafaudage à 18 mètres de haut. Après avoir allumé son fer à souder, l'ex-étudiant qui se destinait à une carrière de professeur de français à l'étranger se saisit d'une brosse métallique.
Je suis en train de décaper. Il faut préparer le zinc pour que la soudure prenne. J'adorais ce que je faisais, c'est juste que j'hésitais vraiment énormément avec un métier manuel. J'avais envie de savoir faire quelque chose de mes mains.
Originaire d'Anceny, Julien revient alors dans sa région en 2019 pour découvrir l'intérim puis trouver un apprentissage. Il visait la charpente et finira en couverture.
Il faut un petit peu sortir de sa zone de confort parce qu'il y a des belles choses à découvrir en fait. On a un des métiers du bâtiment qui est le plus visible, le plus remarquable en extérieur. Et je pense que dans l'inconscient de certains de mes amis, c'est pas quelque chose de valorisant. Alors qu'en fait, ça l'est complètement. Puis il y en a d'autres qui ont un peu le même profil que moi. J'ai mon coloc notamment, avec qui je suis ami depuis 15 ans, et qui lui était en fac de psycho et qui est devenu plombier.
Deux étages plus bas, je retrouve Noémie, marteau de couvreur à la main.
Je suis en train de retaper les pointes pour ensuite étancher avec un papier. Si les pointes restent forcément, c'est plus étanche.
Après un DUT de technique de commercialisation suivi d'une licence en immobilier, la jeune femme originaire d'Evreux a tout quitté en janvier dernier. Son boulot, sa famille et son copain de l'époque pour une nouvelle vie plus conforme à ses souhaits.
J'ai toujours su que je voulais faire un métier manuel à la base, mais on a toujours repoussé les choses parce que j'étais une fille à l'école qui avait des bonnes notes, donc fallait que j'aille dans le général. Et le confinement est arrivé. J'avais enfin le temps de me poser des questions sur ce que j'aimais faire et qui j'étais. Je me suis dit, il faut que je trouve un métier qui est physique et sportif. Je voulais aussi être en plein air, je voulais être en hauteur, je voulais planter, clouer, visser, couper, démonter, remonter. Et voilà, le métier de couvreur, ça réunit tout ça. Et forcément, les gens qui me connaissaient pas beaucoup, quand je leur disais, je veux faire de la couverture, ils m'ont dit, mais t'es complètement folle, t'es toute menue, pourquoi tu vas aller te salir les mains là-haut? Et moi, je leur ai dit, mais parce que c'est ça qui me fait vibrer, j'ai envie d'être au taquet tous les jours.
Deux apprentis très motivés que Florent Cordier, jeune chef d'entreprise de 28 ans en co-gérance, se félicite d'avoir recruté.
C'est des jeunes qui ont un niveau d'études qui est important, donc forcément ça va valoriser un peu les métiers manuels. C'est formidable, nous on est super contents de les avoir.
À beaucoup plus long terme, Julien n'écarte pas l'idée de reprendre des études pour devenir prof, mais ça, c'est une autre histoire.
Les deux jeunes Nantais à la découverte des toits de leur ville, un portrait à retrouver sur RTL.fr. Dans un instant, nous retrouvons Laurent Gérard et toute son équipe.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
8h46, bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour mademoiselle Jeanne.
Ça commence. Voilà. Bonjour monsieur Calvi, bonjour à tous. En déplacement à Rouen, Anne Hidalgo a annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle.
Nom de Dieu !
Tiens Gérard Depardieu, vous vous intéressez à la présidentielle, vous ?
Mais non, les politiques railleries, je m'en bats les rognons avec une cuillère à moutarde.
C'est joli. C'est beau.
Oui. C'est frais, comme la rosée du matin.
Voilà.
Je fais juste du souci pour la France, quand tu vois ce qu'elle a fait à Paris.
Justement, elle a annoncé sa candidature depuis Rouen pour se détacher de son image parisienne.
Allons bon, et pourquoi Rouen? Elle se prend pour Jeanne la Pucelle? Avec tous les Parisiens qu'elle a baisés, ça fait longtemps qu'elle a perdu son pucelage. Mais Gérard, enfin, si elle est élue, elle va défigurer la France. Pense à ton village d'enfance,
ah
ça
oui.
y est
ah oui.
Tu
oui.
le visualises
oui, oui.
Imagine, le terrain de pétanque, place Jean Gabin, bien à l'ombre sous les platanes, avec la douce musique des boules qui s'entrechoquent et Bébert qui engueule René parce qu'il n'a pas lancé le cochonnet à distance.
Oui,
à la distance réglementaire.
Ah bah bien sûr, oui, je vois très bien. Oui.
Et bien si la Givrée est élue, déjà la place Jean Gabin, elle sera renommée place Camélia Jordana. Et à la place du terrain de pétanque, il y aura une salle de yoga.
Je sais pas si ça va plaire à Bébert et René. Ça.
Oh bah ça c'est sûr, sûr que non. Du coup, ils vont aller se réfugier au café de la mairie pour boire un petit ballon de blanc grignotant une rondelle de sauciflard. La France, quoi. Sauf qu'à la place du café de la mairie, il y aura un bar à jus détox. À la place du ballon de blanc, il y aura une infusion fenouil-curcuma. Et à la place de la rondelle de sauciflard, il y aura un cube de tofu aux graines germées.
J'aime bien. Ça va pas leur plaire, ça.
Et à moi non plus, mon Dieu. Alors, si elle passe, je prends la première navette d'Elon Musk et je me barre sur la lune, fumier.
Les candidatures à la présidentielle de 2022 se multiplient. La campagne est officiellement lancée. Voyons comment le président l'aborde en direct à l'Élysée.
Emmanuel, qu'est-ce que tu fais accroché au ventilateur du salon?
Mais c'est pas le ventilateur, Brigitte, c'est mon hélicoptère. Faudrait quand même qu'on signale à Minos que ça devient de plus en plus difficile de se vautrer dans la boue sexuelle.
Mais enfin, Emmanuel, qu'est-ce qu'il te prend? Tu veux une paire de claques? Allez, descends de là, c'est dangereux.
Mais Brigitte, j'apprends par cœur les répliques cultes de Jean-Paul Belmondo et je refais les cascades. Tous les Français l'adoraient. Il faut que je m'en inspire pour ma campagne.
Mais tu ferais mieux de te soucier de tes concurrents. À commencer par Édouard Philippe qui est en train de monter son parti politique de centre droit.
Ah bon? Mais il n'a pas le droit, ce traître avec sa barbe de panda.
Oui, certes. Mais en parlant de panda, je te rappelle que tu as fait le même coup à François Hollande. Mais bon, il faut régler ça. Ok, Goglet. Appelle Édouard.
Ok, Brigitte, j'appelle Edoui.
Alors, c'est qui? Non, prénom, profession, Oswald, allez, hop. Non, mais je vais parler à Edoui Plenel. Ok, Goglet, appelle Édouard.
Ok, Brigitte, j'appelle Bigard.
Bonjour. Je suis pas là pour le moment, mais vous pouvez tous aller vous faire enculer après le poutre sonore.
Non,
mais c'est pas balancé.
Non.
Je la sens pas du tout, cette campagne.
J'aurais tout entendu.
Oh bah oui, on aura tout subi. Oui.
Voilà. Sandrine Rousseau, la candidate écoféministe à la primaire des écologistes, a encore fait parler d'elle sur Twitter. Elle a rendu hommage, vous le savez, non pas à Jean-Paul Belmondo, mais à Jean-Pierre Belmondo. Une faute sur le prénom de l'acteur, doublée d'une faute de français dans son tweet. Retrouvons le pape de l'écologie française, Nicolas Hulot.
Je survole actuellement la zone protégée d'Europe Écologie Les Verts. Une zone malheureusement totalement polluée.
Une pollution aux particules fines?
Non, une pollution aux déclarations d'une espèce qu'on croyait pourtant disparue. Le Conardo écolo diplodocus.
Mais que se passe-t-il?
Je viens de tomber sur la déclaration de Sandrine Rousseau qui préfère, je cite, « les femmes sorcières qui jettent des sorts aux hommes » qui construisent des centrales nucléaires. Alors, voilà une autre déclaration de Sandrine Rousseau. Elle veut accueillir en France les terroristes afghans pour mieux les surveiller.
Oulala, mais il y a un problème, Nicolas?
Je viens de pénétrer dans le cerveau de Sandrine Rousseau. C'est magnifique. Il n'y a rien. C'est le monde du silence. J'ai parlé trop tôt, ce monde du silence est malheureusement pollué par ses tweets hommages.
Ah, vous voulez parler de son tweet sur le célèbre Jean-Pierre Belmondo?
J'ai mieux que ça. Je viens de tomber sur les prochains tweets que Sandrine Rousseau a déjà préparés. Mm-hmm. Dont celui où elle rend hommage à Bernard Delon. Et ses films Le Père Noël est une ordure et La Grande Vadrouille.
Bon bah revenez à la surface, Nicolas, c'est dangereux là.
Bonjour.
Bonjour Pascal.
Bonjour Pascal Pro. Vous n'êtes pas encore en direct sur CNews pour votre émission L'Heure des Pros?
Pas encore. Nous devons d'abord préparer le plateau pour la venue de Laurent Geoffrin. Nous souhaitons accueillir, comme il se doit, ce grand journaliste de gauche.
C'est-à-dire?
Mes complices Charlotte Dornella et Yvan Rioufol sont en train de disposer des punaises à l'envers sur sa chaise. Il va adorer. Hier, Elisabeth Lévy a mis du sel dans son café au nom qu'on a rigolé.
Le pauvre. Et tout à l'heure sur RTL, que nous avez-vous préparé?
J'ai décidé que les auditeurs ont la parole, serait une émission où les opinions les plus diverses pourront s'exprimer. Alors je demanderai aux auditeurs s'ils estiment qu'Éric Zemmour fera un bon président, un très bon président ou le plus grand président de tous les temps. Bon. Au 32-10.
Toutes les opinions, vous êtes sûr?
Mais oui, la preuve, je poserai également cette question. Anne Hidalgo sera donc candidate à l'élection présidentielle. Est-ce selon vous une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle ou la plus grande catastrophe pour l'humanité depuis la peste bubonique de 1347? J'attends vos réactions au 32-10.
Tiens, Gérard Depardieu, mais vous êtes encore là?
Oui. Ah, quand j'ai vu M. Lignac entrer dans le studio, j'ai décidé de rester. C'est un honnête homme, M. Lignac, qui défend notre belle gastronomie française. Sauf que l'autre jour, avec son infusion de fleurs, j'ai testé. Et puis c'est toute la nuit, fumier.
Alors justement, Claudine, qui avait demandé cette recette d'infusion, nous demande aujourd'hui la recette de la raclette végane.
Ah mais j'ai bien travaillé. Hein. Alors, la recette végane, c'est simple.
Oui.
Vous faites bouillir des pommes de terre.
Oui.
Pendant 20 minutes, un petit peu de fleur de sel, et puis c'est prêt.
Ah bah.
Elle vend pas bien la Claudine. On a fait la rampe, une raclette végane, et pourquoi pas un cassoulet aux endives. Pauvre Cyril, bon, pauvre Cyril. Il est plein de bonne volonté, ce brave Cyril, pour plaire aux auditeurs. Mais là, trop, c'est trop. Alors moi, je vais lui commander une vraie recette, à mon bon Cyril.
Oui.
Une choucroute aux trois saucisses, sans choucroute.
Bon, bah, je crois que vous avez compris qu'on était de bonne humeur, voilà, et surtout de bon
Cyril.
Appétit, n'est-ce pas, voilà. Les deux coïncident assez souvent, n'est-ce oui. pas? Bonne humeur et bon appétit. Alors, on vous retrouve sur le site RTL.fr, ah, ouais. vous le savez, ça. Et puis, rendez-vous demain matin avec toute l'équipe. Merci à tous. Cyril.
Ma choucroute.
Là, on peut faire un petit ton mariné.
Un petit ton mariné, ça va.
Juste grillé sur les côtés.
Ah, bon, on est pour, à tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Toute l'équipe de Laurent est restée. Parce que
c'est bien ça le problème. Hein.
Parce qu'ils veulent t'entendre.
C'est bien ça le problème.
Attendez. Ils veulent entendre la question de Gisèle de Lyon. Je dis bien Gisèle de Lyon, qui vous demande la clé pour réussir le mi-cuit de thon.
Ah, c'est le thon de la Saône ou du Rhône alors?
Alors, ça dépend. Ouais, voilà.
Alors, chez le poissonnier, on achète un morceau de thon.
Oui.
Alors, ça dépend combien on a à la maison, bien entendu, mais c'est vrai qu'un un joli morceau comme ça de 400-500 grammes, mm-hmm. on le coupe en deux. Mm-hmm. Ensuite, on le fait mariner. Donc, je mets du gros sel. Des herbes, je mets de la nette, on met des baies roses, mm-hmm. on met sur du papier film, on roule le thon dedans, on le serre bien,
oui.
on le laisse à peu près 20 minutes. Après, on le prend, on le rince sous l'eau pour enlever le sel. Ça va permettre, un, d'attendrir les chairs, deux, de les parfumer. Mm-hmm. Ensuite, on le roule dans un linge, donc on a deux morceaux, puisqu'on oui. a coupé le thon en deux. Et ensuite, je le coupe. Alors moi, j'aime bien le laisser entier, comme mm-hmm. ça, assez long. Et là, on met une poêle avec de l'huile d'olive. Et là, on cuit le thon sur les quatre faces, bien fort. Comme ça, on a la croûte sur les côtés et le cœur est cru. Et ce qui est
donc
bon...
ça croustille à l'extérieur
exactement.
Et c'est tendre à l'intérieur.
Exactement. Mmh. Comme quand on mange finalement un morceau de viande où c'est bien coloré sur les côtés et saignant au milieu. Donc là, on fait bien cuire les côtés. Mmh. Et moelleux à l'intérieur. Ensuite,
vous laissez pas perturber par cette bande là parce que non, moi je vous le dis tout de suite.
Ensuite, c'est mon jour de bonheur. On est le lundi 13.
Oui, ah bah alors très bien.
Ah oui.
Et ensuite, on taille des tranches, mm-hmm. on le dépose sur une assiette un peu comme un carpaccio.
Voilà.
À côté, je fais une petite vinaigrette avec de l'huile d'olive, des zestes de citron. Il y a encore les petites tomates, c'est encore la pleine saison des tomates.
Ah bah j'en ai cueilli hier en Bourgogne.
Et elles sont sublimes.
Sublimes.
Et oui, parce qu'elles ont pris le soleil tout l'été.
Mais il faut que vous me regardiez. Alors... Pardon, excusez-moi, Cyril, je suis désolé.
Parce que je vous imagine en train de
oui.
Bah oui, mais je l'ai fait. J'ai des photos qui en attestent. Pardon, et cher donc, Cyril.
On coupe les petits morceaux de tomates dans l'huile d'olive. On peut mettre des petits morceaux de brocoli, du citron, du zeste de citron. Et là, on dépose un tout petit peu dessus. Et là, on a finalement du cru et du cuit mm-hmm. avec le thon très parfumé. C'est vraiment une recette que j'adore. Et que Laurent adore aussi.
Oui, non, c'est de bon thon.
Oui, c'est de bon thon. Et toutes les étapes de cette recette sont à retrouver sur le site RTL.fr. Merci à toute l'équipe d'être restée avec nous. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité avec Dominique Tenza.
3 ans après le scandale qui avait secoué l'Elysée, Alexandre Benalla est jugé à partir d'aujourd'hui à Paris pour avoir brutalisé un couple lors des manifestations du 1er mai 2018. Également pour l'utilisation de passeports diplomatiques. L'ancien chargé de mission du chef de l'État, âgé de 30 ans, risque théoriquement 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Le procès des attentats de Paris, lui, va rentrer dans le vif du dossier aujourd'hui avec l'audition cet après-midi de ceux qui ont remonté la piste des commandos djihadistes. Un peu plus de 3000 classes fermées en France à cause de l'épidémie de Covid, annonce ce matin Jean-Michel Blanquer dans les colonnes du Parisien, ce qui ne représente que 0,5% de toutes les classes du pays. Le ministre de l'Éducation en poste depuis 4 ans, 3 mois et 27 jours qui vient de battre ce lundi le record de longévité à ce poste sous la 5e République. C'est le premier vol commercial à se poser à Kaboul depuis le retour au pouvoir des talibans. Il s'agit d'un avion de la compagnie pakistanaise PIA, le mouvement islamiste assure qu'il s'agit là du premier signe d'un début de normalisation économique du pays. Anne Hidalgo, officiellement candidate à l'élection présidentielle, la maire de Paris a déclaré sa candidature hier à Rouen, une de plus à gauche, voulant, je la cite, réinventer le beau modèle français. Et puis le tennis et la victoire cette nuit du russe Daniil Medvedev qui remporte l'US Open en 3-7 face à Novak Djokovic. 6-4, 6-4, 6-4, le Serbe qui échoue à remporter 4 grands chelems en un an.
Merci beaucoup Dominique Tenza.